I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans le sixième épisode de The Raccoon Club, le club de ceux qui aiment les histoires et les raccoons, mais surtout les histoires. Je vous invite à vous asseoir près de moi autour du feu qui crépite et vous laisser emporter par l'histoire que vous allez entendre. Un lundi de mars sous la pluie, je suis en retard à un rendez-vous. Je cours, talons à la main et tailleur en velours sur le dos. Je le vois de loin, il m'attend à une table. Je me dis qu'il est beau, beaucoup trop beau, beau comme un camion. Il porte un perfecto en cuir noir et une nonchalance digne d'un Vincent Lacoste, l'acteur qui joue dans Les Beaux Gosses. D'ailleurs, si vous tapez « acteur nonchalant » sur Google, vous tomberez en premier sur Vincent Lacoste. Oui, on se regarde, on tombe amoureux, bref, je vous passe les détails, mais il y avait de l'alcool et de la macarena impliqués. Les jours suivants, je l'invite pour la première fois à venir chez moi. Et devinez ce que l'on regarde ?
Les Beaux Gosses.
Ce film devient notre repère de private jokes et Hugo, c'est son nom, se dévoile peu à peu sur son amour pour la musique, le cinéma, les glaces et les chiens. Il me raconte son enfance bercée par les sons et les odeurs tropicales de l'île de la Réunion, sa famille, ses frères qu'il aime par-dessus tout et sa difficulté à devenir adulte. Presque gardé au creux de la main, comme un grand secret, depuis qu'il est petit, il est facilement dans la lune. Ses idées partent dans tous les sens comme du pop-corn qui éclate. Il est alors difficile de rester concentré quand les pensées se bousculent dans la tête comme des auto-tamponneuses. Le trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, TDAH, en anglais, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD, est un trouble du neurodéveloppement caractérisé par trois types de symptômes pouvant se manifester seuls ou combinés, des difficultés d'attention et de concentration, des symptômes d'hyperactivité et des problèmes de gestion de l'impulsivité. En quelque sorte, ne pouvoir réaliser que des tâches qui tirent sur la sonnette du cerveau de la récompense immédiate et parfois avoir le temps d'attention d'une loutre bourrée. Un cerveau avec une sorte de super-pouvoir, ou plutôt une sorte de cerveau de super-héros myope qui aurait oublié ses lunettes à la maison, mais qui aurait la capacité d'écouter, d'ignorer et d'oublier le tout simultanément.
Mon Dieu, mais qui est-il ?
Sa mission, il allait conquérir le monde, et puis il a oublié. Mais alors, comment sait-on que l'on devient adulte un jour ? Qu'est-ce qui nous dit que ça y est, on est adulte ? Qui décide ? On veut des noms. Et le jour où l'on devient réellement adulte, qu'est-ce qui nous dit que l'on est un adulte qui fonctionne ? Voici Hugo, qui a décidé de mettre un mot devant l'autre pour vous raconter son histoire.
Symptoms of ADD, ADHD and hyperactivity in children.
Le trouble du déficit de l'attention, c'est-à-dire le manque de concentration chez un enfant, est apparu dans le DSM en 1970.
One, Adderall abuse is a problem. Absolutely.
Depression, anxiety or ADHD, just to name a few.
Aujourd'hui, je reçois l'invité qui vit le plus près de chez moi, puisque nous vivons sous le même toit. Je reçois Hugo. Bonjour Hugo.
Coucou.
C'est bizarre, je crois qu'on s'est jamais dit bonjour, je crois qu'on s'est jamais même fait la bise.
On s'est fait la bise la première fois où on s'est rencontrés.
C'est vrai, c'était la seule et dernière fois.
C'était avant le Covid.
Première et dernière fois. Aujourd'hui, on a décidé de faire ce podcast ensemble et c'est pas si simple en fait, parce que je pense que quand t'es un couple, c'est encore plus difficile parce que tu te connais quand même bien. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière et que tu nous expliques le beau jour où tu es né en 1900? 88.
Je suis né le 29 mars 1988 sur l'île de la Réunion à Saint-Denis.
J'avoue que ça m'a un peu fait craquer. La première fois que tu m'as dit ça, je me suis dit waouh.
J'avais mes parents travaillaient là-bas et du coup j'ai eu la chance de pouvoir grandir là-bas jusqu'à mes 6 ans.
Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes rentré en métropole ?
Eh ben on est arrivé, on a fait un petit passage par Lyon. J'ai vécu un an là-bas.
Alors, le bon contraste, hein, quand même, ouais. Réunion-Lyon.
C'était dur un peu, ouais. C'était dur.
Non, on adore
J'adore
Lyon.
J'adore Lyon. Hein. Ouais, mais c'était dur le fait de revenir de la Réunion plus qu'autre chose. Lyon, c'était cool, mais c'était trop extrême la différence.
Ouais.
Et du coup, les parents ont vite pris un job dans le sud de la France et on est parti dans le sud de la France à ce moment-là pour retrouver un peu de soleil.
Et à la base, vous n'êtes pas du sud ?
Non, mais du coup, je suis quand même arrivé dans le sud vers 7 ans, tu vois.
Ouais.
Donc j'ai quand même passé une grande partie de ma vie à Arles, dans le sud de la France.
Que tu commences à arriver vers 8, 9 ans à peu près. Ouais. Donc là, c'est quoi ? Scolarité normale ?
Scolarité normale. Après, assez vite, dès la primaire, un peu agité en classe, un peu compliqué de
te canaliser.
Donc, pas, voilà.
À cette époque-là, c'est très film,
ouais.
Très bouquin,
ouais.
Très sport.
Et puis la musique qui va arriver tout doucement au collège.
Ok, donc t'aimes bien la musique, t'aimes bien écouter la musique.
Ouais, mais comme tous les ans, en gros, un enfant assez classique, quoi.
Du coup, le lycée arrive.
Ouais, les années de collège passent, l'adolescence, découverte du rock britannique et rock américain, un peu la culture, comme toute ma génération, les garçons un peu qui font du skate ou qui veulent, qui se prennent pour des ricains, qui regardent American Pie. Voilà, et du coup, j'ai un peu phasé sur des groupes de punk rock californien, comme plein de gars de mon âge à l'époque, donc Green Day, Blink... Sum 41, voilà. Et en troisième, du coup, je supplie mon père pour qu'on aille voir en concert Sum 41.
C'était ton premier concert ?
C'était le premier concert que j'avais choisi
okay.
d'aller voir. Mes parents m'offrent la place et du coup, mon père m'accompagne avec mon meilleur pote. Il nous emmène voir Sum 41. Donc là, on est en 2002, 2003 2003 peut-être, 2000, voilà. En sortant de la salle de concert, je dis à mon rep, je veux aussi faire de la musique avec mes copains. Est-ce que je peux faire de la guitare ? Parce que j'en rêvais, ça faisait des années que je rêvais de faire de la guitare. Donc mon père, en sortant de la salle de concert, me dit, mais tu sais, si tu travailles dur, si tu travailles fort et tout, un jour, ça...
Tu pourras faire la même chose.
Ça peut t'arriver, il faut juste travailler, il faut juste y croire, il faut être sérieux dans ce que tu fais, mais... Mais voilà, tu peux le faire avec...
Cool déjà.
Genre, en fait, c'est ça qui a été...
Super supportif.
Ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Avant ça, je faisais du saxophone, voilà. Petite anecdote.
J'avoue pillé.
Et du coup, j'ai eu ma première guitare électrique. On va prendre le modèle le moins cher, parce que ça se trouve, dans 2 semaines, t'auras changé d'avis.
Parce que le saxophone, déjà, on en a plein le cul. Du coup, tu décides de faire de la guitare électrique.
Ouais.
Déjà, c'est cool.
Non, okay. c'était cool, c'était marrant. Mais moi, j'ai jamais été très technique à la guitare. Hein. Je suis vraiment un peu un imposteur, quoi. La guitare, c'était une excuse, quoi. C'était un alibi pour pouvoir écrire des chansons. C'est ça le but, en fait.
D'accord, voilà. Et s'accompagner.
J'étais pas le genre de gars qui va sortir une guitare à une soirée, une guitare acoustique et qui va jouer un morceau tout seul. Okay. Genre vraiment trop compliqué, trop... La guitare, c'était juste une excuse pour pouvoir écrire des chansons. Le lycée a été un peu plus bizarre pour moi que le collège parce que je commençais à me sentir un poil un peu en décalage, ouais. Je m'ennuyais beaucoup en classe.
T'étais toujours aussi grande bouche, genre.
Je crois que le fait de faire de la musique, ça m'avait un peu canalisé, donc j'étais un peu low profile en classe. J'avais des copains, j'avais des potes. J'étais un peu moins.
T'étais populaire un peu.
J'étais pas dans les mecs populaires à proprement parler parce que j'étais un peu un nerd quand même. J'étais un peu le rêveur un peu de la team. Le lycée se finit et je passe à la fac d'éco. Et là, c'est là où je lâche la rampe.
Là, ça te plaît pas.
Non, non, je kiffe pas.
C'est-à-dire sur 32, par exemple, on met la fac à quelle note ?
Pour moi, ça a été 0.
0 sur 32 ? Et tu faisais quoi au lieu d'aller à la fac ?
Je faisais de la musique.
Ah, comme de paranoir.
J'essayais d'écrire des chansons. C'était pas glorieux au début, mais...
Donc là, t'as quel âge ? T'as 17 ans.
17 ans.
Et là, vous décidez de créer un groupe.
Ouais, après le lycée, on monte un groupe avec Olivier, toujours, mon meilleur ami.
Qui s'appelle ?
Qui s'appelle Starliners. Et il y a mon autre ami de toujours, donc Tony, qui nous rejoint à cette époque.
Okay.
Et là, c'est trop cool parce que je m'aperçois que je me sens à ma place, quoi. Je suis en studio, enfin dans le garage, en gros.
C'est quoi, c'était un garage ?
C'était une arrière-cuisine.
Et donc ça a été formulé...
Et ça part assez vite, en fait. Ça part vite, ça... Comment dire ? Il y a une effervescence, il y a une énergie que t'as quand t'es jeune et quand t'as une idée et que tu vas au bout de ton idée, je trouve... qui est assez belle, et surtout quand c'est des copains.
Est-ce que vous vous étiez fixé un goal ? Genre, ok, on crée un groupe, mais on veut tout défoncer.
Oui, mais alors c'était plus soyons un peu fous et faisons-nous rêver un peu.
Voyons ce qu'on peut faire.
Faisons-nous kiffer et faisons-le à fond.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé si on devait résumer un peu toutes les étapes importantes du groupe?
Du coup, pour te la faire courte, dans les 1 an qui suivent, on fait notre première télé. On n'avait pas, pas de manager, pas de maison de disque, rien du tout, on venait de nulle part. Et à partir de là, c'était un peu lancé. Assez vite, du coup, on commence à enchaîner les concerts. Et par chance, une maison de disque nous repère à ce moment-là. Et on se retrouve, du coup, pour parler avec Universal.
Grosse maison de disque, donc ça fait quand même plaisir.
Ça fait plaisir, ça fait peur aussi. C'était un train qui allait très vite, la musique. Mais à l'époque, déjà, ma tête commençait à être un peu ailleurs. Ça devenait un peu compliqué dans ma tête. J'étais un peu submergé pour plein de raisons. Mais en gros, à l'époque, donc dans ma vie perso, c'était un peu compliqué. Dans ma vie de famille, puisque j'avais un papa qui était malade à l'époque et qui se battait contre un cancer.
Oui, ça colle pas du tout avec ce que tu vivais.
Et ça crée une schizophrénie, en tout cas une vie... un peu double, la dissonance entre les deux, elle devenait de plus en plus dure à gérer, forte, ouais.
Est-ce que tu penses qu'il y a une part de toi qui a aussi voulu que ça fonctionne pour montrer à ton papa à ce moment-là que bah, la musique, ça peut marcher, que c'est lui qui t'a dit, bon, allez, ok, on t'achète ta première guitare, et que bah, du coup, ça aurait eu le sens de faire tout pour que ça fonctionne et de... qu'il puisse te voir sur scène, qu'il puisse vous voir enregistrer.
Bien sûr, ouais. 10 ans plus tard, jour pour jour, on se retrouve à faire la première partie de Sum 41 au Zénith de Paris. Ce jour-là, mon cœur, il a bondi. Il s'est vraiment décroché quoi, dans mon ventre. Et on s'est tous pris dans les bras, on a tous sauté. On était sur un petit nuage. Quoi. On allait rencontrer ceux par qui, entre guillemets, on avait commencé un peu à faire ce genre de musique. Et du coup, ce soir-là, au Zénith de Paris, dans un Zénith bondé, il y avait mon père dans le public. Il était assez fatigué, puisque ça faisait des années qu'il était malade. Et il était dans le public avec ma mère. Et juste avant de monter sur scène, je me souviens être parti des loges, d'avoir escaladé les gradins. Et j'ai pas pu m'empêcher, à quelques minutes de monter sur scène, d'aller voir mon père et ma mère dans les
gradins. T'as couru dans les gradins ?
Je suis allé faire un câlin à mon père. Mmh. J'ai dit, on l'a fait.
Oh.
On l'a fait.
Il était content.
Et il était, ouais, il n'en revenait pas. Il n'en revenait pas que 10 ans plus tard. Mais il y a toujours cru, lui, en fait. Donc, en fait, je crois que moi, j'en revenais pas, mais que lui, il le savait, quoi. Mmh. C'était vraiment un rêve de gamin qui se réalisait. Et le truc qui va se passer, c'est que quelques mois après, donc 3 mois après, il y a un coup de frein, donc du coup, qui va survenir. C'est que. Bah, du coup, je perds mon père. Ça s'arrête. Voilà, il a 49 ans. Et à ce moment-là, j'ai pas trop réussi à surmonter cette épreuve à l'époque. Et les garçons du groupe ont toujours été à l'époque d'une grande patience avec moi. Je pense qu'ils voulaient me protéger aussi. Du coup, ils m'ont laissé beaucoup, beaucoup de temps. Et sauf que le temps après, ben c'est en fait, le temps, c'est pas infini, tu vois. Mmh. Donc le temps passe et t'as de plus en plus de mal à raccrocher les wagons au niveau musique. Ça devient de plus en plus compliqué de te remettre dans cette espèce d'énergie où tout s'aligne. Puisqu'en fait, quand tu fais le choix d'arrêter une carrière, entre guillemets, ou de la mettre en pause, tu dois réorganiser ta vie. Tu dois commencer à te construire en tant qu'adulte, commencer à gagner ta vie aussi à côté. Donc, ta vie devient moins simple, entre guillemets, ou moins organisée autour de ta passion. Donc, une fois que tu veux raccrocher des wagons et refaire ta passion, c'est plus compliqué de trouver du temps ou de trouver l'énergie ou les moyens de le faire, quoi. Je commence à faire un peu autre chose dans ma vie aussi, à côté de la musique. Et je commence à faire de la réal. Donc mes premiers amours, je t'avais dit, c'était le cinéma quand j'étais gamin. Et je me rends compte que, en fait, ça me permet aussi de raconter des histoires, de filmer des choses et de les monter. C'est une autre musique.
C'est de la musique pour les yeux.
Exactement.
Et c'est fou parce que du coup, c'est comme si tu avais eu plein de vies dans une vie. C'est que là, j'ai l'impression qu'une fois que tu pars dans la réelle, ça commence à être une autre vie.
Bah ouais, j'ai toujours été un hyperactif.
Et ça, tu t'en rendais compte pendant que tu faisais de la musique ou c'est apparu un peu après ?
La musique, c'était la manière parfaite de dompter, entre guillemets, ce comportement, même si ça avait des dérives que les garçons ils constataient ou ils subissaient parfois en studio ou quoi, parce que je ne m'arrêtais jamais jusqu'à 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures du matin.
Donc c'était pas... déjà bien présent.
Bien sûr, ouais. À 20 ans déjà, c'était compliqué. C'était compliqué, mais ça marchait dans un cadre.
Oui, il fallait que ça marche comme ça.
On arrivait à peu près. Alors, on était un peu dysfonctionnel, mais je crois que tous les groupes sont un peu dysfonctionnels, tu vois. Mais on était dysfonctionnel, mais ça arrivait à tourner parce qu'il y avait un cadre, il y avait une équipe, il y avait un manager, il y avait les trois autres membres du groupe qui étaient très très présents et qui étaient un peu les espèces de garde-fous de cette créativité qui peut parfois déborder et qui cadre. Du coup, ça tourne. Et à partir du moment où je commence à me retrouver un peu seul, en tant que réal ou en freelance, vers 25 ans, la vie d'adulte un peu post-musique, ça commence à partir en sucette un peu.
C'est la fête du slip.
Ouais, je me rends compte que mon comportement vis-à-vis de ma façon de travailler ou ma façon d'envisager mon quotidien me porte préjudice en fait parce que y a pas de frein.
Quand on s'est rencontrés il y a 2 ans, notre premier encart, on est allé dans un bar où je suis arrivée genre grave en retard.
J'aurais dû en profiter à l'époque pour me mettre une caisse. Mais
on en
tout
a
cas,
profité. Mais le pire...
Au final, t'as quand même déboulé, t'as débarqué au
bar. Non, mais le pire du pire, c'est que j'étais dans un resto collé au bar.
Ouais, tu voulais pas t'afficher.
Non, c'est normal. Que... Voilà, j'avais vraiment...
T'avais un autre date, en fait.
Non, pas du tout, on était plusieurs. C'était un repas un peu de boulot, tu vois. Et du coup, voilà, j'attendais de finir mon repas pour te rejoindre. Mais comme on s'était pas vraiment dit une heure précise, on était des gens à la cool, on s'était donné une fourchette.
C'est quoi, tu m'as fait payer pour toutes les fois où j'ai fait attendre des gens pour des... Voilà,
c'est le karma.
Ouais, c'est le karma.
Quand je t'ai vu, du coup, t'avais ton petit perfecto. Et j'ai senti directement que t'avais pas envie de trop en dire. Mais en même temps, tu vois, tu parlais quand même hyper facilement. T'as commencé à me raconter 2-3 trucs sur ta vie. Et j'ai senti vraiment très rapidement que quand tu t'exprimais, ça partait un peu dans tous les sens. Enfin, pas dans tous les sens, mais t'avais plein de trucs à dire. C'était grave intéressant. Et en même temps, tu te retenais parce que tu trouvais que peut-être t'étais pas intéressant. En fait, tu t'auto-jugeais en même temps que tu disais des trucs. Et je me disais, mais ce mec-là a des histoires incroyables à raconter. Et genre, je sentais qu'en même temps, tu te freinais. Et à d'autres moments, quand même, tu te disais, bon, vas-y, je lui raconte. Bon, je vous passe les détails, mais de suite, ça a matché. Et la première fois où je l'invite chez moi, on décide de regarder le film Les Beaux Gosses. Là, vous rentrez vraiment dans notre intimité. Parce que c'est un film qu'on aime bien tous les deux et on se sortait souvent les répliques. À l'époque, on se parlait avant de se rencontrer. Et donc, ce soir-là, on décide de regarder Les Beaux Gosses. Et là, un événement qui m'a mis la puce à l'oreille sur ce personnage qui est Hugo.
C'est ce que tu vas dire.
C'est que tellement y a quand même des répliques cultes. Si vous n'avez pas vu ce film, je vous invite à le voir parce que c'est pépite.
Eh, c'est quoi ?
Ben, c'est le contrôle de SVT.
Il y a contrôle ?
Ben oui, il y a contrôle.
Du coup, une fois qu'on avait regardé le film, tu m'as passé peut-être, je sais pas combien de vidéos YouTube où tu me repassais en boucle
l'extrait qui
t'avait fait rire, ou juste des fois une phrase, un mot, ou même juste un hochement,
un hochement
en fait, d'épaule d'un des personnages.
Genre une moue, tu vois. Ouais, non, mais ouais. Mais bien sûr, Océane. Hein.
Mais fais voir le truc, c'est sur quoi ?
Bah, c'est pas maintenant que tu vas réviser.
C'est pas maintenant que tu vas. Mais t'es conne ou quoi ?
Et du coup, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, c'est trop cool.
Est chelou.
Mais ce mec ne lâche pas l'affaire.
Ouais.
Je disais, non, mais c'est bon, merci.
Tout
merci,
va bien,
c'est
ça
cool.
Va très bien, merci.
Et tu me disais, mais si, regarde.
Regarde, t'as pas vu, regarde le hochement. Mais regarde, là, à 45 secondes, il fait vraiment un hochement, c'est du génie.
C'est ça.
Et c'est vrai que tu l'as remarqué ce jour-là.
C'est un bon révélateur parce que ça marque le début de.
Les gens vont se dire, que ce mec est un psychopathe.
Mais non, pas du tout. Mais non, mais ça montre que t'avais repéré un truc, un seul truc, et tu ne lâchais pas, et t'étais en boucle dessus. Et
obsessionnel, ouais, tu peux le dire.
Obsessionnel dessus, et je me suis dit, ok.
Ok, ça a l'air
voyons voir. Voyons voir.
Ça t'a fait peur, quoi.
Non, ça m'a pas du tout fait peur.
Non, mais...
Voilà, c'est un trait de caractère que je connaissais pas chez d'autres personnes.
Ah ouais ? À ce point-là ? Non, mais on a tous des amis un peu relous qui fixent sur des trucs, non ?
Moi, pas trop. Enfin, en tout cas, pas à ce point-là sur un hochement d'épaule, tu vois.
Ouais, ça va un peu loin, ouais. Des fois, ça va trop loin.
Pour moi, c'est vraiment...
Il a un comique de répétition un peu extrême.
Ouais, pour moi, si vraiment je devais marquer ou faire rouge le jour où j'ai compris un peu qui t'étais... C'est ce jour-là.
Merci parce que... Riyad Satouf de faire des films aussi drôles.
Ce qui est assez révélateur, c'est souvent les films, parce que c'est un moment où on doit être un peu concentré et voilà. Tu vois, moi je sais que des fois je me tais parce que j'essaie de me concentrer et que des fois je me dis merde, j'ai perdu le film. Et toi, il faut que tu dises à voix haute tout ce qui se passe. En tout cas, je me dis à ce moment-là que dans ta tête, ça va vite.
Ouais.
Ça va super vite. Mmh. Il se passe plein de trucs, autant de l'anticipation que de l'observation, que
de l'association.
L'association, parce que alors il y a aussi un autre truc. Quand tu vois quelqu'un, souvent un acteur, tu vas te dire lui, il ressemble à un tel.
Alors que parfois c'est juste les sourcils, quoi.
Parfois c'est juste peut-être
même lèvres supérieures, quoi. Non, mais vraiment c'est abusé. Mais c'est pareil pour tout le monde. Pas que les acteurs, mais quand je vois quelqu'un, j'ai beaucoup de mal parfois à retenir son prénom. Ou je sais pas, sa date de naissance, tu vois, c'est chaud, mais par contre, son visage, je l'oublierai jamais. Je fais en permanence des associations de traits de visage avec d'autres. C'est pas une volonté d'associer les gens les uns les autres et les mettre dans des cases, mais c'est que mon cerveau, il a besoin de faire des associations tout le temps. Une idée en amenant en permanence une autre. Donc, c'est vrai que quand je regarde un film, je vais toujours trouver des points de similitude entre ce film et un autre, alors que parfois, c'est des trucs très éloignés. Il y a souvent un lien quand même, tu vois.
Oui, non.
Mais où, entre des visages, je dis ah ouais, elle me fait penser à machin. Trouve pas qu'elle, on dirait Justin Bieber, mais en fille. Non, pas du tout, trop pas. Mais si, elle a
non,
la
mais
même
des
bouche.
Fois, c'est genre, est-ce que tu trouves pas que lui, il ressemble à Popeye?
Quoi Je me rappelle absolument pas. Est-ce que tu trouves pas qu'elle ressemble à Sonic le Hédisson?
Non, mais oui, c'est non, ça. Mais... Des fois, c'est trop bizarre. Et puis, des fois, je le dis pour rire. Et
des fois,
du
c'est absurde.
Et pendant ce temps-là, nous, généralement, il se passe plein de trucs. C'est-à-dire que tu fais beaucoup d'associations, tu t'anticipes beaucoup le scénario, ton cerveau va à 1000 à l'heure. Non, pas du tout, mais tu vas à 1000 à l'heure alors que c'est plutôt un moment de détente.
Oui, c'est vrai. Oui, t'as raison. Oui, c'est vrai.
C'est que les moments de détente avec toi sont parfois synonymes d'intellect qui va très très vite.
Voilà, conclusion.
Allez.
Allez, ciao, bisous. Ouais, bah, c'est pour ça qu'on fait ce podcast aussi, c'est pour parler un peu de ça. Je pense que tu voulais qu'on parle un peu de cette condition, entre guillemets. Je sais pas trop, moi jusqu'à mes 30 ans, je savais pas pourquoi j'étais comme ça.
Bah, on va revenir à la genèse, plutôt comment tu te décrirais?
Comment je me décrirais? Je pense que je suis un hyperactif, hyper curieux. Et que je suis un addict, en fait. Je suis addict à tout ce qui me procure de la dopamine. Je suis addict à tout. Alors, les gens vont se dire, le mec est un gros taré. Mais je suis addict vraiment à créer ou raconter des histoires depuis que je suis tout petit. Et je suis addict à apprendre des choses et à écouter les histoires des gens. C'est-à-dire que, quelle que soit l'histoire qu'on me raconte, quelle que soit la personne qui se trouve en face de moi, peu importe son background, son milieu social, son rôle dans la société ou... Ça me fascine. Du coup, je pense que je suis un adulte un peu dysfonctionnel aujourd'hui, à 32 ans. 33, putain. Parce qu'en fait, ça s'est aggravé en vieillissant.
Alors déjà, on va essayer de mettre des mots sur hyperactif.
Ouais.
Aujourd'hui, hyperactif, c'est pas une maladie. C'est plutôt ce qu'on appelle une condition. Donc il faut qu'on fasse la différence parce que c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas quelque chose qui se soigne à proprement parler. C'est quelque chose qu'on développe ou avec lequel on est. Je sais que dans ma famille, on a... deux cas d'hyperactivité. Mes deux cousins ont été diagnostiqués avec un traitement. Donc, le traitement, c'est la Ritaline et le Concerta. Donc, c'est deux médicaments qui sont là pour aider les... En tout cas chez l'enfant, à ce que l'enfant se structure et grandisse dans des conditions de concentration un peu plus agréables et qui fonctionnent. Parce que voilà, le gros problème avec l'hyperactivité, c'est surtout la concentration. Arrête-moi si je me trompe, mais c'est surtout ça, en fait, c'est cette inacuité à
ouais,
pouvoir se concentrer.
C'est ça, complètement.
Et ça peut poser problème, notamment dans les études, dans l'apprentissage de quelque chose, ouais. Ou alors, quand on essaie de contourner ce problème de concentration, on peut devenir obsessionnel sur des sujets ou sur...
Exactement.
Ça peut être la musique, ça peut être... peu importe, voilà, on prend un sujet qui nous passionne et...
Et on le prend à bras-le-corps et on n'arrête jamais.
Alors toi, c'est...
Il n'y a pas de frein, comme je disais tout à l'heure, pas de pédale de stop.
toi, tu combines un petit peu plein de traits de l'hyperactivité.
Ouais.
Tu remplis beaucoup de cases de l'hyperactivité, ouais. Mais c'est pas un mot sur lequel on t'a posé un diagnostic quand t'étais petit.
Ouais, exactement. En fait, c'est donc ce que tu viens de dire, c'est un nom en France, donc ça s'appelle le TDAH, trouble de l'attention avec hyperactivité. Donc c'est TDA ou TDAH. Donc il y a un déficit, trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité.
Mais avec en fait, ou sans. Il y en a qui l'ont, et en fait,
c'est ça le problème, c'est que le terme en lui-même de TDA ou TDAH, il est erroné de base parce qu'il pose un constat qui dit que c'est avec ou sans hyperactivité. Et ça, c'est déjà une erreur parce qu'en fait, il y a toujours de l'hyperactivité.
Moi, j'ai l'impression que les deux sont très liés.
Sauf que l'hyperactivité, elle est soit physique, soit intrapsychique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi, enfin, en France, en tout cas, il y a parfois plein de gamins qui ne sont pas diagnostiqués ou qui sont surdiagnostiqués, peu importe, mais aux US, on surdiagnostique beaucoup. En France, on a des lacunes dans le diagnostic parce qu'on pense forcément hyperactif égale un gamin qui escalade les arbres H24, qui fait des roulades dans le supermarché, qui se lève, qui se met debout sur le radiateur en classe.
C'est vrai que c'est un peu comme ça qu'on
donc,
le voit.
Un hyperactif, c'est forcément un hyperactif physique. Alors qu'en fait, hyperactif, il y a deux façons d'être hyperactif. C'est soit un hyperactif cérébral, donc elle se passe à l'intérieur de la tête. Toute l'activité, elle est continue. Elle est d'ailleurs épuisante, mais elle est mentale. Soit elle est extériorisée par le corps. Dans mon cas, moi, même si j'étais un garçon plutôt sportif et je bougeais pas mal, j'étais pas vraiment hyperactif physique. C'est-à-dire que j'avais pas d'agitation sur une chaise, dans une file d'attente. J'étais pas le genre de gars qui va taper dans ses mains ou taper du pied H24. J'étais plutôt actif, mais pas à ce point-là.
Parce que mes cousins, c'était vraiment ça.
C'était une hyperactivité physique.
Et cérébrale. Je pense qu'il y avait les deux.
Il y avait les deux. Je pense que c'est juste qu'il y en a une des deux qui prend à un moment donné le dessus. Et dans le diagnostic, du coup, parfois, on dit que c'est une activité physique ou une activité mentale. Dans mon cas, à moi, il y avait une activité cérébrale qui était très intense dès l'enfance. Et à l'adolescence, déjà, au collège, je me couchais tous les soirs vers 1h ou 2h du mat, ce qui était quand même déraisonnable au collège, donc à 10 ans. Parce que je voulais écouter l'ancêtre du podcast, quoi. J'écoutais des émissions, j'écoutais de la radio libre, ben, comme toi d'ailleurs, sauf que au lieu d'éteindre à 22h30 ou à 23h, à 1h ensuite, il y avait des compiles de musique, il y avait les débuts de la French Touch, alors j'écoutais ça jusqu'à 2h du mat, et le matin à 6h, j'étais explosé. Mais il fallait jamais que je dorme, quoi. Je voulais toujours pousser mon cerveau. Et quand il fallait travailler, c'était compliqué, parce que comme ça m'intéressait pas trop, mon cerveau, il frisait. Donc ce que moi j'appelle les brain freeze, enfin ce qui est genre un bug, il se passait plus rien, et mon cerveau arrivait pas à dire à ma main, prends ce stylo et remplis cette feuille. Dès que l'activité que je fais ne me procurait pas de plaisir ou pas de stress, j'étais incapable de l'effectuer. Et en France, souvent, on a tendance à dire que les gens qui sont comme ça, c'est des gens qui ont... c'est un truc d'éducation. Genre, cet enfant, il n'est pas très volontaire. Ou cette fille, à l'école, elle n'est pas très courageuse parce qu'en fait, elle a des capacités, mais elle peut mieux faire, mais elle ne fait rien. Et en fait, on se dit un peu bêtement des fois, même parce qu'elle n'est pas très courageuse ou pas très volontaire.
Ou l'inverse, cet enfant, il est turbulent. Alors qu'en fait,
il y a souvent une raison psychique à tout ça. Chimique, en fait, c'est de la chimie. Je ne suis pas très technique, hein, je ne suis pas médecin, donc d'autres le font mieux que moi. Mais en gros, pour t'expliquer, toi, tu sais, parce qu'on en a parlé, mais ça vient des récepteurs de dopamine. Les récepteurs de dopamine, dans le cerveau, on en a tous un certain nombre.
Qui est le coin du cerveau de la récompense immédiate.
Exactement. C'est une espèce de... C'est une hormone, hein, qui c'est l'hormone de la récompense, sauf qu'elle a un double rôle. Elle a un rôle cognitif aussi. C'est celle qui te permet de prendre des décisions, enfin d'activer ta zone de prise de décision. La dopamine, on en génère aussi dans des situations de stress intense. Quand tu vis un moment très choquant, un moment de peur intense, tu vas générer plein de dopamine.
Est-ce que ça s'associe à l'adrénaline?
Alors, je peux pas dire de bêtises, mais je sais pas. Mais je sais que dans des situations de stress ou de survie ou quoi, tu vas aussi en générer, tu vas en avoir besoin. Okay. Tu vas en générer aussi quand tu fais l'amour, des choses comme ça. Enfin, on en génère tout le temps, mais ça procure du plaisir ou ça aide à prendre des décisions.
Pour donner un mini-exemple de mini-coups de dopamine, les chercheurs, alors c'est assez connu, mais la dopamine, un shoot de dopamine, ce serait l'équivalent comme d'un like sur Instagram, en fait. C'est ce truc de... c'est une récompense immédiate. Voilà, c'est... t'as un like sur ta photo, t'en veux plus.
Ça génère de la dopamine,
voilà,
aussi. Ouais.
Ça génère de la dopamine, donc t'en veux plus, ouais. Et ça te fait du bien, et donc tu deviens un peu addict, donc c'est voilà.
De toute façon, on est dans une société où les réseaux sociaux, enfin les grands réseaux sociaux l'ont très bien compris, on on est devenus un peu les esclaves de notre dopamine. Donc en fait, ce dont on parle, c'est une condition qui menace et qui touche un peu tout le monde. Évidemment que tout le monde est sensible à la dopamine et beaucoup d'entre nous se reconnaissent dans ce tableau où tu as besoin toujours plus de dopamine. Le problème, c'est que pour un certain pourcentage de la population, je sais pas, je crois que c'est un truc genre 10 ou 15%, donc des gens qui ont un diagnostic de TDAH, c'est que cette carence en dopamine fait que dans ton état normal, dans ton état naturel, tu as beaucoup de mal à avoir de la dopamine normalement en fait. D'accord. C'est-à-dire que ton niveau de dopamine est anormalement bas et que du coup ton cerveau il répond pas à la modalité, à la marche normale. C'est-à-dire que mon cerveau il a que deux modes de fonctionnement. Au lieu d'avoir le mode concentration normale, j'ai que deux états. J'ai soit totalement déconcentré, totalement inintéressé, soit totalement obsédé, enfin obsessionnel, vraiment c'est soit à fond, soit éteint. Et il n'y a pas cette espèce d'entre-deux de cette zone un peu de maîtrise qui permet de planifier des choses, qui permet de se tenir un planning, qui permet d'avoir une notion du temps, de se permettre de s'organiser. Cette notion, elle n'existe pas. En tout cas, quand j'étais jeune, elle existait à peine et en vieillissant, elle a disparu, quoi.
Après, t'es encadré différemment. C'est comme...
Je me suis engagé dans une vie qui a favorisé ça aussi.
Quand t'es plus petit, tes parents t'encadrent, tes professeurs t'encadrent, etc. Dans ta vie à toi, quand t'as eu ton groupe de musique, du coup, il y a quand même toute une équipe autour qui permet de s'organiser, de se concentrer sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire de la musique, écrire des chansons, etc. Mmh. Et là, tu te retrouves à une période de ta vie où tu es ton propre patron.
Ouais.
Et c'est toi qui décides.
Ouais. Ouais, du coup, je me suis construit cette vie-là aussi, mais sans vraiment en avoir conscience. C'est parce que j'ai fait des choix. J'ai toujours voulu poursuivre des activités ou des voies qui me généraient de la dopamine. Et au final, du coup, je me suis retrouvé à m'éloigner un peu du rivage, un peu, tu vois. Et j'arrive à 30 ans en mode, ok, j'ai l'impression d'être un adulte dysfonctionnel. Mais... Et c'est comme ça que je le dis, et ça peut sembler un peu bizarre comme phrase, parce que je pense qu'on est tous des adultes dysfonctionnels, tu vois. On est tous broken, on a tous des problèmes à gérer.
Et surtout que les cartes ont été redistribuées aujourd'hui, quand on a... avoir 30 ans aujourd'hui, c'est plus avoir 30 ans à l'époque de nos parents.
Bien sûr, et je me plains absolument pas. Il y a des gens qui ont des problèmes bien plus compliqués, mais dans mon cas, le mien, c'est que je me suis rendu compte que je fitais pas. Je fitais pas dans un fonctionnement un petit peu d'adulte responsable qui s'organise, qui arrive à...
Tu veux parler un peu d'administratif et tout ?
Ouais, mais toutes ces choses-là, en gros, en fait, toutes les choses qui ne génèrent pas de l'intérêt, je n'arrive pas à les faire. Et le problème, c'est que pendant longtemps, je me suis dit, putain, mais je suis lâche, en fait, c'est de la lâcheté, tu vois, c'est un manque de conviction, un manque de courage, d'organisation, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte, au bout d'un moment, que même en réunissant toutes les bonnes volontés du monde, j'avais l'impression de vivre dans un monde dans lequel j'avais pas de lunettes. Impossible de me focus sur quoi que ce soit qui ne me fait pas stresser ou qui ne me rend pas heureux.
C'est soit c'est le dernier cara et il faut que tu rendes quelque chose.
Exactement. C'est soit la dernière ligne droite. Et là, j'ai un instinct de survie qui va kick.
C'est au bout, au pied du mur.
Ça va kick vraiment, ça va démarrer. Je vais faire ouf. Genre là, c'est foutu. Et là, mon instinct de survie, je vais retrouver mon espèce d'instinct animal qui va faire que du coup, je vais m'épuiser pour produire le meilleur truc possible. Je vais en arrêter de dormir et tout, et je vais sortir le truc, et ça va, dans 99% des cas, ça va passer. Soit je vais jamais le faire, en fait, ce truc, s'il n'y a pas de...
Enfin, tu vas le faire, mais ça va peut-être mettre plus de temps. En fait, c'est ça. Parce qu'on est d'accord que 99,9% de la population, des trucs, je pense que ça ne fait plaisir à personne de remplir sa fiche d'impôt ou faire de la compta.
Bah après,
et que au plus on recule l'échéance.
Bien sûr, ça reste une tannée pour tout le monde. Et, enfin, après, il y a des gens qui adorent la compta et tout, hein, bien sûr. Mais,
oui, on vous embrasse.
Mais voilà, moi, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Je leur fais un gros bisou. Et moi, j'y arrive pas. Et c'est pas faute d'avoir essayé, mais j'ai l'impression d'être complètement démuni face à ça.
Moi, j'ai jamais cru que c'était de la lâcheté de ta part. J'ai vu très très rapidement que c'était pas possible. C'était juste
pas
possible.
Ça me donne des angoisses. En fait, c'est un peu comme quand j'étais gosse et que je faisais des maths. Les maths, ça me donnait une espèce de peur irrationnelle. J'avais peur des maths. Mais vraiment, je pleurais et tout. Hein.
Ah, moi aussi.
C'était trop... Voilà, bon, ça arrive à plein de gamins. Et toi, voilà, toi la première. Mais ça me rappelle un peu ce sentiment-là.
Mais c'est ce... Alors... je raccroche ça à je dois faire ça, mais je sais pas pourquoi je dois faire ça.
En fait, c'est ça.
Et c'est... je pense que c'est la sensation que ça doit donner, j'imagine, parce que c'est, ça me fait ça à moindre échelle, en tout cas ouais. beaucoup moins que toi, sur plein de petits trucs, effectivement.
Mais voilà, imagine ça, mais poussé à l'extrême. Ah ouais. Et arriver à une extrême où tu te retrouves à être réellement dysfonctionnel, et tu l'as remarqué, parce que ça peut être des choses insignifiantes, comme par exemple faire sa valise avant de partir prendre l'avion.
Oui, toi, c'est une tannée.
Ou quel t-shirt je dois mettre aujourd'hui.
Ou même...
Alors qu'on va juste se promener au bois, tu vois.
Juste sortir de la maison ne nous prend pas du tout le même temps.
En fait, c'est ça, c'est des décisions insignifiantes. Vraiment, avoir plein de choix possibles, ça me crée de l'anxiété, en fait. Enfin, c'est très bizarre, parce que je suis pas quelqu'un d'anxieux dans
non,
mon apparence,
mais
dans ma manière d'être. Ça se voit pas, c'est interne. Hein, comme
tu te crées des moments de stress.
Ouais.
On en a déjà parlé, mais... Alors, déjà, il a fallu que tu fasses ta valise. Donc déjà, première étape, ça t'a stressé. Et ensuite, il faut que tu partes. Et à chaque fois que je t'ai vu partir, c'était en catastrophe.
Ouais.
En fait, tu crées pas mal de situations... Où tu te mets au pied du mur, genre, t'avais 10 minutes devant toi.
Et je vais les cramer en cherchant un truc.
Ouais, en cherchant un stylo à billes. Alors que tu sais que là où tu vas aller, chez ta mère, il y en aura un. Mais c'est pas grave.
Mais je pense que tu as dit le bon mot, c'est que je me crée des situations comme ça. Je me les crée parce que j'ai besoin de ces situations-là pour fonctionner. C'est trop bizarre.
Alors que c'est quand même un peu sado, tu vois, sado-maso, quoi, parce que ça fait...
Ouais, c'est trop bizarre.
Ça te fait du bien, parce que sur le moment, ça te donne un coup de boost, et d'un autre côté, c'est quand même... Ça fait du mal, quoi.
Ouais, bien sûr, ça fait du mal, bien sûr. C'est dur de vieillir avec ce truc quand tu te rends pas compte de ce que t'as, et d'avoir juste l'impression d'être différent, mais pas différent bien, différent chelou. Tu vois, genre, tu te dis, putain, mais moi, j'arrive pas à fonctionner comme tout le monde, tu vois.
Vers quel âge tu t'es dit ça?
Je me suis dit ça vers 28, 29.
Donc, c'est arrivé quand même assez récemment, c'est pas assez
ouais,
vieux.
Tu vois, parce qu'en fait, ça peut décevoir des gens aussi autour de toi, d'être comme ça. Parce qu'en fait, du coup, t'arrives jamais vraiment à faire ce que... Il y a un truc qui est assez récurrent chez les gens qui ont cette condition, quoi, le TDAH ou quoi. C'est que tu t'engages dans tout.
T'es un yes man.
Tu
sais pas dire
tu
non.
Tu dis oui à tout, bien sûr. Mais ça, c'est un truc vraiment. C'est expliqué et
c'est
tout.
C'est caractéristique.
Hein. En fait, tu t'engages dans tout. Tous les projets qu'on te propose, c'est ah ouais, carrément, c'est trop cool, j'ai trop envie de le faire.
Alors, ça, c'est un vrai trait de ta personnalité quand même.
C'est tout, ouais, pas de problème. Et en fait, le truc, c'est que du coup, je sais que je vais le faire, mais je vais le faire au moment où je serai au pied du mur et je vais accumuler des tonnes de choses à faire et ça se retrouve.
Ça se retrouve coincé dans ton
ouais, dans
agenda.
Un,
ouais.
un pipeline qui est sans fin de trucs
à faire
ouais. Et du coup, tu te déçois. Des gens qui attendent que tu mets en retard des projets aussi, parce que du coup je me suis planté sur des trucs aussi, bien sûr, parce que c'est pas infaillible, en fait c'est pas un super pouvoir, encore une fois ça reste quelque chose qui peut être très contraignant aussi pour l'entourage, ça peut décevoir aussi, ça peut te faire perdre des amitiés aussi, parce que enfin.
Mais il faut expliquer, c'est-à-dire que c'est un truc très ambivalent, parce que les gens aiment ce que t'es. Et ce que tu fais, alors je vais parler au sens large, parce que cette condition fait aussi ce que t'es, c'est-à-dire quelqu'un qui est super créatif, qui sait faire plein de choses, qui va faire aussi bien de la musique que de la vidéo, etc. Donc ça t'amène à ce que les gens te demandent ou te proposent des projets, que ce soit audiovisuel ou musical. Et du coup, si tu dis oui, ça, c'est quand même un processus créatif qui est parfois un peu plus long que je sens, toi, tu n'arrives pas à jauger la quantité de travail que ça va te nécessiter.
Ouais, exactement.
Et en plus, comme ce n'est pas des choses que tu vas faire à la va-vite, je pense que les gens qui ont le TDAH ont l'envie du travail bien fait.
Ouais, ouais.
Et ils n'ont pas la notion du temps.
Exactement.
Donc du coup, ça crée des situations très compliquées.
Ouais.
De ne pas pouvoir dire à la personne envers qui tu t'es engagé que ça ne va pas être possible. Parce que dans ton cerveau, c'est obligé d'être possible. Et que de toute façon,
c'est forcément possible.
C'est forcément possible.
Il y aura forcément une solution.
Et c'est très bizarre parce que du coup, tu crées chez les gens cette sympathie et ce truc où je sens autour de toi, c'est assez personnel ce que je vais dire, mais que les gens t'aiment énormément. Enfin, comme tu parles très facilement, tu l'as dit toi-même, tu parles très facilement aux gens, tu vas t'intéresser beaucoup à leur vie, ce qu'ils vont raconter, etc. C'est naturel chez toi. C'est quelque chose que je pense qu'on aime tous chez toi parce que c'est ton caractère, qui pousse les gens à forcément bien t'aimer. Et c'est involontaire, tu vois, tu projettes ça chez les gens et que du coup, ils projettent peut-être trop de choses sur toi, ce qui fait que des fois, c'est trop lourd à porter, quoi.
Et ça peut être déceptif ou décevant, en tout cas, quand ça se passe pas de la manière dont moi, je leur ai promis que ça allait se passer. Enfin,
bah,
pas comment
tu
expliquer,
promets rien, mais
je leur dis, ouais, on va faire ça carrément.
Voilà, c'est ça. Et que du
et
coup,
en fait, ça se passe pas toujours comme ça.
Et puis, on peut pas avoir 30 000 meilleurs amis. C'est que,
non, bien sûr,
il y a un moment donné, t'es obligé d'avoir un cocon familial, ouais. Un petit cercle amical, ouais. Et ensuite, bon, voilà, ça s'élargit. Mais toi, t'as tellement envie de que tout le monde soit content et soit heureux autour de toi que ouais, du coup, ouais. T'as envie de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, mais c'est impossible.
Ouais.
C'est juste impossible.
En fait, c'est très difficile de prioriser les choses aussi. Donc, on a dit que, en fait, disons que ça, mes meilleurs amis me l'ont fait remarquer. Hein, Olivier, notamment, me l'a dit. Il m'a dit, tu sais pas dimensionner le travail. Il n'y a pas de dimension. Et de la même manière, il n'y a pas de notion du temps. Donc, comme on disait tout à l'heure, moi, une heure de travail, quand je la fais, quand je suis dans ma zone, ce que j'appelle la zone.
La zone. Suis...
Ouais, la zone en personne, comme dirait Jules. Non, mais quand je suis dans cette zone de hyper-focalisation, du coup, qui est un espèce d'effet du TDAH aussi, c'est que pour autant, je suis totalement désintéressé de quoi que ce soit qui me procure pas de stress ou de plaisir. Mais par contre, si ça me procure du stress ou du plaisir, je suis totalement absorbé par ce que je fais et ça n'a aucune fin. Et du coup, je n'encaisse pas, je ne ressens pas la charge de travail. Donc ça peut être un effet bénéfique aussi quand tu fais un métier créatif, par exemple un auteur qui écrit
ça,
un
c'est
bouquin.
Juste incroyable.
Tu peux travailler pendant des jours et des jours et des jours, genre à coup de 20 heures par jour, et tu t'en rends pas compte et tu le fais comme ça. Et à la fin, bam, c'est fait. Le problème, c'est que du coup, moi, je le fais quand je suis en studio aussi, c'est des marathons. C'est des marathons qui ont quand même des conséquences sur ta vie privée, parce que c'est quand même des marathons qui sont un peu fatigants. Tu payes toujours un peu l'addition après ce genre de marathon.
Il faut expliquer qu'il n'y a pas beaucoup d'heures de sommeil.
Il n'y a pas beaucoup de sommeil, voilà, tu vas beaucoup travailler et tout, et puis tu vas sortir un truc qui va être super et tout. Et puis parfois, tu vas dire merde, en fait, je suis allé beaucoup trop loin, je me suis trompé, parce que dans mon obsession, je me suis un peu égaré à un moment dans le truc. Donc parfois, c'est relou, mais parfois, c'est vraiment cool. Et pourquoi je te dis ça? C'est que du coup, le temps ne s'écoule pas de la même manière. Une heure, ça passe en 10 minutes.
Alors, mais toi, c'est
vraiment 10
minutes.
Vraiment, hein. C'est abusé. Genre, 10 minutes, c'est l'équivalent d'une minute. Ça, c'est clair.
Toi, c'est vraiment. Je trouve que c'est vraiment très prépondérant dans ta vie.
Et de plus en plus en ce moment. Et voilà, et en ce moment, je me bats un peu pour ça. Tu vois, je me bats pour.
Notre temps ne s'écoule pas de la même façon.
Ouais, on n'est pas sur le même fuseau horaire. Et puis, même ma journée. En fait, depuis que je suis gamin, ça, par contre, je me souviens avoir toujours dit, j'aimerais que les journées, elles durent 60 heures. Et je me souviens que. Mon père, ça lui avait fait un peu peur quand je lui avais dit ça. Mais je pense que mon père, il était comme ça aussi. Mais
tu penses ?
Je lui ai dit, ouais, ça serait pas trop bien que la journée dure 60 heures. Et il m'a dit, c'est long quand même une journée déjà de travail. Le soir, t'es content de rentrer
c'est
à la maison.
C'est un peu long, non ?
T'es content, tu vois, de regarder... tu regardes Thalassa en rentrant, t'es content. Quoi. Et en fait, moi, j'étais là, genre, mais ça pourrait durer 60 heures, ça serait bien, tu vois. On pourrait travailler pendant 50 heures et après pendant 10 heures, dodo. Non, mais déjà, j'ai toujours eu ce truc-là, de vouloir que les journées, elles soient infinies, en fait. Pour repousser la...
Mais ça te rassurerait qu'elles soient plus longues ?
De ouf. Et ouais, j'aimerais que ça dure, quoi. J'aimerais pouvoir mettre pause.
Et toi, dans la vie, qu'est-ce qui te rend heureux ?
Qu'est-ce qui me rend heureux ? Bah, y a plein de petits trucs qui peuvent me rendre heureux. Le problème, c'est que parfois, quand tu développes cette condition et que tu te perds dans cette condition, tu oublies de te poser un peu sur les petites choses de la vie. Ça c'est un vrai truc, parce que tu deviens boulimique de travail ou boulimique de créa ou d'idées. Une idée en amène un autre.
Ah, mais du coup, t'as contourné ma question.
Qu'est-ce qui me rend heureux, moi? Du coup, j'aime beaucoup réussir à imager une émotion. Genre, un des trucs qui m'a beaucoup animé pendant longtemps, c'est de réussir à transformer ma nostalgie en quelque chose. Donc c'est un sentiment, la nostalgie, elle se transforme en quelque chose. Donc que ça soit une vidéo ou une musique ou des sonorités ou une histoire, j'aime beaucoup raconter cette nostalgie.
Mais c'est vrai que tu l'as pas dit.
Mais ça peut être la nostalgie de quelqu'un d'autre, ça peut être l'histoire de quelqu'un, mais j'aime beaucoup transformer une idée en proposition, on va dire, artistique.
Mais tu l'as pas dit tout à l'heure quand t'ai demandé comment tu pouvais te décrire, mais la nostalgie, c'est un truc aussi très présent chez toi.
J'essaie de moins en moins, d'ailleurs.
Ça, c'est
je pense que tu l'as remarqué.
Ça a beaucoup évolué depuis que je t'ai rencontré.
Même entre le moment où on s'est connus et là, aujourd'hui, il y a 2 ans, j'étais très nostalgique.
Ouais.
Les 10 dernières années, même, j'ai toujours été très nostalgique. Dans ma relation d'avant aussi, c'était avec ma copine d'avant, on en parlait, et des fois, elle aussi, ça pesait aussi, elle trouvait que j'étais trop nostalgique. Et
parce que du coup, t'es pas ancré dans le présent.
Exactement. Et ça, quand tu m'as connu, j'étais encore troublé par ça. Et aujourd'hui, ça c'est une des vraies victoires que j'ai eues ces dernières années quand même, parce que tout n'est pas noir, heureusement. C'est que j'ai réussi à comprendre que la nostalgie, c'est un super outil créatif aussi. C'est une super émotion et qu'il faut rester connecté à cette émotion parce qu'elle est belle, mais qu'elle peut être un peu dévorante et elle peut être un peu paralysante. Et en fait, la nostalgie, aujourd'hui, j'arrive à la maîtriser un peu comme une petite boîte que j'arrive à ouvrir de temps en temps. Ça devrait être comme ça en règle générale, parce que moi, à un moment donné, je suis tombé dans ce truc via mon histoire, via mes faiblesses psychiques peut-être, ou via aussi le fait d'avoir cultivé cette nostalgie. Mais pendant longtemps, j'ai un peu entretenu cette nostalgie, ouais.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors moi, je peux comprendre ça, non pas que je sois une personne nostalgique, mais je pense que c'est une émotion dans laquelle on peut vite se complaire. C'est une émotion qui est agréable et désagréable. Elle est neutre, en fait. Elle est un peu triste, mais je ne sais pas si vous avez vu le film Vice Versa de Pixar. Et c'est complètement ça, en fait. C'est une émotion qui est un mix de plein d'émotions et qui, du coup...
Elle n'est pas neutre, par contre.
Elle n'est pas neutre.
Non. L'opposé de neutre. Elle est complexe, en fait.
Elle est complexe, voilà. Oui. Alors, je me suis mal exprimée.
Non, mais...
Pas vraiment neutre, mais je veux dire, elle est un peu entre deux états.
Ouais.
Et du coup, elle est entre la joie et la tristesse.
Ouais.
Donc, c'est pour ça que j'ai eu tendance à dire qu'elle était neutre.
Oui, je vois
mais
ce que tu veux.
C'est pas ce que je veux dire. C'est une zone un peu grise.
Oui, complètement.
Et c'est une zone dans laquelle on peut se complaire pour se protéger. Et du coup, je comprends que tu puisses avoir envie de rester là-dedans. Sauf que cette émotion, elle empêche un peu d'avancer. Elle est bien.
Tout à fait.
C'est un bon moteur. Parce que ça permet de se souvenir des très jolies choses. Et puis voilà. Mais
je suis d'accord avec toi.
Et je pense que se souvenir aussi des moments qui ont été compliqués, c'est un très bon moteur. Et je trouve que tu as réussi quand même à ouvrir cette petite boîte où il y avait marqué nostalgie dessus.
Ouais.
Et tu t'en es servi pour faire de la musique.
Ouais.
Tu t'en es servi pour mettre des mots dessus, pour créer un univers. Tu adores les années 90, les années 90.
Ouais, mais... pour moi, la nostalgie, maintenant, je la résume pas à une période, parce que ça peut être n'importe quelle année, en fait. Ça peut être la nostalgie d'il y a un an, tu vois, ou d'il y a deux ans avant le Covid, pourquoi pas, avant la pandémie. Donc, elle est pas tant liée à une période, c'est plutôt lié à quelque chose qui est passé et qui ne reviendra plus, à part dans tes souvenirs. Donc, j'ai une mémoire d'éléphant, depuis toujours. Mes copains l'ont toujours remarqué. Je me souviens de chaque détail d'énormément de moments de ma vie. De moments partagés avec des gens, de détails sur des gens. Tu vois, autant je me souviendrai difficilement de la date de naissance, mais par contre, je peux me souvenir avec précision de détails de la vie de personnes qui m'ont côtoyé, même quand on était très jeune. Tout ça pour dire qu'un jour, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la nostalgie, j'ai lu une phrase un jour d'un artiste que j'admirais, je sais plus de qui c'était, ça va me revenir, mais qui disait que nostalgie is a poison. Il disait, can be a poison, genre ça peut être un poison. Et il racontait que lui-même s'était perdu dans ça. Et je me suis vu, en fait. Je me suis dit, en fait, c'est mon poison à moi, quoi. C'est ma petite drogue, mais elle me sert un peu de béquille, mais je me suis endormi dedans, comme un nuage dans lequel il y a un petit poison un peu qui m'endort, tu vois.
Sa kryptonite.
Exactement. Ouais, c'est ça, c'est un peu...
Merci, Florie, pour la référence.
C'est totalement la kryptonite. Kryptonite, ouais.
C'est la tectonique.
Oui, ça peut te paralyser, en fait.
Et est-ce que tu penses que la nostalgie fait partie de la condition... Du TDAH ?
Je crois pas. Non, je crois pas.
C'est propre à toi.
Je pense qu'il y a plein de gens qui sont nostalgiques, plein de gens qui ne le sont pas, qui sont tournés vers le futur. Je pense que c'est très cool d'être un peu les deux. C'est trop bien de pouvoir switcher d'un état à l'autre. Je crois qu'en fait, c'est comme ce qu'on disait la dernière fois, c'est que tout est bien à condition que ça ne soit pas à l'excès. C'est la balance de tout ça qui fait que la vie, elle a de la saveur, quoi. C'est trouver ce juste milieu entre tout. Chaque chose, et je pense que chaque trait de personnalité, d'ailleurs, est bon à avoir. Le tout, c'est de ne pas en abuser. Et donc, je pense que la nostalgie, non, ce n'est pas lié au TDAH, pour répondre à ta question. Je suppose qu'il y a plein de gens qui ont le TDAH qui sont nostalgiques, mais je crois pas que ce soit propre.
C'est pas une case à remplir.
Je sais pas.
C'est la question que je me posais parce
C'est une bonne question.
Faut savoir qu'on en parle de temps en temps.
Mais on parle pas trop non plus, voilà, mais on s'interroge.
Je me pose des questions que je garde pour le podcast. Une autre question, est-ce que tu connais des artistes que t'aimes bien ou des gens plutôt connus qui ont le TDAH?
Ouais, beaucoup de monde quand même. Hein. Non, mais donc ça montre qu'en fait il y a plein de gens qui ont ce trouble et qui arrivent à fonctionner, quoi.
Mais c'est des gens qui sont tous ultra calés dans leur domaine.
Oui, oui, non, mais après dans les auteurs et tout, même dans les inventeurs, t'as Léonard de Vinci qui avait un gros TDAH a priori, t'as Einstein qui l'avait aussi.
Tu m'étonnes.
T'as plein d'entrepreneurs aussi, parce que c'est un trait aussi que beaucoup d'entrepreneurs ont. Je me suis parfois aperçu que je m'attachais à des personnalités de gens, par exemple, que je trouvais attachants, quand ils parlent, par exemple, pour ensuite découvrir qu'ils avaient été diagnostiqués aussi ADD ou ADHD.
Bah, dans la liste, il y en a pas mal que t'aimes.
Ouais.
Robin Williams, c'est des gens à qui tu t'intéresses.
Ouais, ouais, c'est vrai, t'as raison.
Donc c'est, non, pour moi, la liste, elle est assez révélateur,
ouais,
tu vois.
Complètement.
Révélatrice. Un des autres traits de ton trouble de la concentration, c'est d'être obsessionnel par phase.
Ouais.
Alors, ça peut être sur des sujets divers et variés.
Ouais.
Est-ce que tu as envie de nous en dire plusieurs?
Oui, mais ça, je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent et qui vont peut-être se reconnaître dans ça. Mais tu sais, c'est ce qu'on appelle les lubies un peu.
Mm-hmm.
Alors, si tu as des lubies, ça ne veut pas forcément dire que tu as un TDAH.
Pas
mais
du tout.
Par contre, quand tu as un TDAH, ça favorise assez vite l'apparition de ce genre de lubies. Donc, moi, les lubies, c'est que je vais m'intéresser à un sujet, je vais le poncer jusqu'à le connaître vraiment. Enfin, j'aurais pas la prétention de dire que je le connais sur le bout des doigts, mais je vais essayer de connaître un maximum de détails sur ce sujet parce que ça m'intéresse et que ça me procure de la dopamine. Et après, je passe à autre chose, un autre sujet.
Alors, comme quoi, par exemple?
Mais je sais pas, mais genre, en gros, tout. Genre, le réseau social Reddit, c'est une grosse mine d'informations. Et je sais qu'il y a pas mal de gars, enfin, de gens qui ont des TDAH et qui sont à fond sur ce site. Parce que c'est plein de gens qui échangent plein de connaissances.
Mais comment tu
l'expliques?
Je pense que tu te reconnais pas mal dans les gens qui écrivent sur Reddit. Alors, ça dépend des sujets, hein, mais c'est un endroit qui est cool. T'as l'impression qu'il y a plein d'opinions différentes. Et pour toi, c'est une mine d'or parce que t'aimes bien savoir.
En fait, déjà. Pour commencer, juste pour décrire, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, on n'a pas expliqué ce que c'était le TDAH en quelques mots.
Ah bah vas-y.
Et comment je me sens en étant quelqu'un qui a un TDAH. Donc il y a plein de gens en écoutant ce podcast qui vont peut-être se reconnaître et qui vont se dire « Ah mais moi aussi je me sens comme ça ». Auquel cas, bah, peut-être qu'il y a des gens qui vont découvrir que ça a un nom. Et je trouve ça assez cool parce que sachant qu'en France, c'est pas beaucoup diagnostiqué. Il y a aussi d'autres gens qui doivent le savoir déjà, tu vois. Mais je trouve que moi, par exemple, je l'ai appris qu'à 30 ans que j'avais ça.
Alors, tu t'es un peu au début autodiagnostiqué?
J'ai fait des tests, j'ai fait plein d'examens et après je les ai confirmés et j'étais forcé de me rendre à l'évidence, quoi.
Alors,
ça permet de mettre un diagnostic sur un ressenti. Ma meilleure amie qui est infirmière, qui un jour m'a dit, en cours aujourd'hui, on a parlé d'une condition qui m'a un peu troublé parce que je t'ai vu en fait en lisant les symptômes. Elle m'a dit, ça s'appelle un TDAH et en fait je te vois. Et ça fait 10 ans qu'on se connaît. Et elle m'a dit, mais tout ce que j'ai lu, c'était toi. Est-ce que tu peux aller vérifier, aller regarder sur Internet? Est-ce que tu peux te rencarder? Et du coup, je suis allé faire des tests, je suis allé lire des articles, et tu me connais, hein, donc du coup, je ne l'ai pas fait à moitié. Et d'un coup, en fait, j'ai pleuré, hein, en fait, au bout d'un moment, à force de lire les articles et de lire les témoignages de gens qui avaient ça, ça m'a fait pleurer parce que j'ai eu l'impression de découvrir toute une communauté de gens qui se sentaient de la même manière que moi, c'est-à-dire qu'ils étaient un peu en décalage.
Ça mettait des mots sur ce que tu ressentais.
J'avais l'impression de devenir peu à peu un peu le spectateur de ma vie et que c'était très compliqué de prendre des décisions les plus anodines en tout cas, devenaient les plus dures à prendre. Faire le béaba devenait difficile et tout. Et du coup, j'avais l'impression d'être en train d'être en échec sur plein de points nécessaires à la vie d'adulte, on va dire. Genre pas en échec créatif, parce que ça s'arrête jamais, mais en échec sur le reste, quoi.
J'ai une question qui est, je pense, pas très facile. Alors, on parle du TDAH en tant que condition, mais il y a un autre terme qui s'appelle le haut potentiel, qui rejoint beaucoup aussi le TDAH. Est-ce que tu sais un peu la différence entre les deux?
Alors, je sais pas trop la différence, mais enfin, si, la différence, c'est que tu peux être haut potentiel sans avoir le TDA, en fait. Tu peux être quelqu'un qui a un haut potentiel et qui fonctionne bien, a priori, mais je m'avance peut-être, mais je crois que tu n'es pas obligé d'avoir ces troubles de l'attention. Haut potentiel, ça veut dire qu'en gros, tu as une pensée qui est assez développée. Développée, ça veut juste dire que, en fait, moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire haut potentiel ou TDA. Et quand on me demandait comment je me décrivais, comment je me sentais, je décrirais que je vis sous une espèce de pluie battante de pensées, de post-it. Comme s'il y avait des milliers de post-it avec plein d'idées qui tombent en permanence. C'est étourdissant au bout d'un moment parce que chaque pensée en amène une autre, comme un arbre en fait. Et donc ça s'appelle la pensée en arborescence. C'est un nom, tu vois. C'est qu'il y a des gens qui pensent de manière séquentielle. Ils font une tâche. Ils arrivent à l'accomplir et ensuite ils passent à la tâche d'après. Ça leur permet de se planifier, ça leur permet de s'organiser, d'anticiper. Et il y a des gens qui pensent de manière totalement, pas anarchique, parce que c'est pas du tout anarchique, mais c'est un espèce de chaos quand même au niveau des idées. C'est un arbre de pensée. Chaque idée, elles sont intrinsèquement liées en fait, mais les connexions, tu les vois pas toujours évidemment. Enfin, faut tracer des traits entre les idées. Un jour, j'ai dit que j'avais l'impression que ma vie, c'était comme une grande... Tu visualises une grande table... Ouais. Sur lequel il y a des centaines de bols, tu poses des centaines de bols, et chaque bol, j'ai commencé à le saupoudrer, à le remplir un peu. Alors que la vie de quelqu'un qui est séquentiel, en général, il prend un bol, il le remplit, il va jusqu'au bout, et ensuite il commence à remplir un autre bol. Il fonctionne étape par étape, et il fait des actions en fait. Et moi, j'avais juste l'impression que c'était une géante table avec des bols inachevés partout. Et ça, c'est une espèce de pensée en arborescence. Et je crois que ça a un lien, oui, ça peut avoir un lien avec ce que tu appelles le haut potentiel. Maintenant, moi, j'ai jamais fait trop d'examens, j'ai jamais fait trop de tests pour savoir à quoi ça correspond, tout ça. Donc, je sais pas. Moi, je fais une petite aparté, parce que pour rebondir sur ce que tu dis, tu as raison. Je pense qu'il y a plein de gens qui t'écoutent, Léa, plein de mecs et de filles qui t'écoutent et qui doivent se sentir des fois un peu, peut-être, un peu différents.
Ah, mais moi, je n'ai que des hauts potentiels dans mes idées. Non, pas du tout.
Non, écoutez, si, je pense que, en fait, à un moment, ça fait toujours du bien de se dire, OK, en fait, je ne suis pas un weirdo. En fait, tout va bien. Il y a plein de gens comme moi. Parce que, encore une fois, on parle de TDA, on donne des noms à des conditions et tout. Mais
et surtout, ça ne veut pas dire plus intelligent. Oui, attention. Et ça n'a rien à voir avec le QI.
Oui, c'est toujours un peu relou de parler de notions de potentiel et de QI et tout. Parce que tu as l'impression que, du coup, ça fait un peu rap et tout. Donc, on remet toutes les choses à plat. C'est juste que dans ta tête, des fois, ça va un peu vite. Tu as du mal à calmer un peu le bruit interne. Donc, des fois, pour t'endormir aussi, c'est compliqué et tout. Et je pense qu'il y a plein de gens qui se reconnaissent dans ça, et je pense en plus, d'autant plus ces deux dernières années, énormément de gens se sont retrouvés seuls chez eux, en télétravail, à se retrouver confrontés à eux-mêmes, et à s'écouter un peu plus. Et quand le bruit de ta vie en société s'arrête un peu, t'entends un peu plus le bruit intérieur. Et donc je pense qu'il y a plein de gens qui se rendent compte aussi qu'il y a un truc à l'intérieur qui n'est pas tout à fait comme ce qu'ils voient autour d'eux. Et ça, ça a des mots, il y a des mots qui existent, des diagnostics et tout, et c'est cool d'en parler, c'est cool de dire que c'est pas une maladie, c'est juste une condition. D'ailleurs, je crois que de plus en plus d'enfants et de plus en plus de générations vont développer ce trouble, puisqu'en fait, ce trouble, il est grave entretenu par les réseaux sociaux aussi et par Internet, qui te donne des réponses immédiates en permanence, des récompenses immédiates. Le lien sur Wikipédia, l'hyperlien, c'est ni plus ni moins que la définition d'un cerveau de TDAH. En fait, c'est que chaque article t'amène vers un autre article, chaque idée t'amène vers une autre idée. Et le lien cliquable, en fait, c'est ça. Donc, on a de moins en moins de temps, on est de plus en plus pressé, on zappe de plus en plus. Donc, des gens qui ont un TDA, un trouble de la concentration, il va y en avoir de plus en plus. Aux États-Unis, ça explose aussi. Et je crois que c'est cool d'en parler et de se dire, voilà, en fait, c'est juste une condition qu'il faut dompter un peu, en fait.
Alors, j'allais en parler, justement. Les États-Unis ont un petit peu, j'ai l'impression... Alors, ce n'est que mon avis. Hein. J'ai l'impression qu'ils ont un peu un train d'avance sur le trouble de l'attention parce qu'on en parle beaucoup dans les universités.
Ouais.
Il y a beaucoup de Ritaline qui a été... Alors, c'est pas vraiment
dans
de la Ritaline.
Adderall, ouais.
L'Adderall, alors, qui n'est pas tout à fait la même chose. En fait, il y a une question de libération immédiate ou prolongée sur le médicament. Je ne suis pas pharmacienne, je ne vais pas vous l'expliquer, ouais. Mais en gros, l'Adderall en France est interdit, si je dis pas de bêtises.
Et parce nous, que c'est une libération courte,
voilà,
c'est un
nous,
peu un stimulant.
En France, on n'a que de la libération prolongée, qui est le Concerta ou la Ritaline.
Je crois que c'est ça. Ouais.
Dites-moi si je me trompe, vous me dites.
Dites en commentaire. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a probablement des gens qui nous écoutent qui sont sous médicaments
pour des troubles similaires. N'hésitez pas. Alors, et du coup, j'avais regardé un documentaire sur Netflix dans le truc de l'Adderall dans les universités.
Ouais, c'est un produit dopant en fait.
Et c'est hyper répandu.
Pour les gamins, enfin pour les gens qui sont à la fac, ouais. C'est répandu, ouais. Bah tu sais, c'est un peu la même molécule que la cocaïne en fait. Donc en fait, ça te booste et ça te permet de résoudre des équations un peu plus rapide. Enfin, c'est un peu dit de manière simpliste, mais ça te permet de te focus et de faire fonctionner ton cerveau à plein régime, quoi.
Donc enfin, ça te
pour
permet
les gens qui
de...
n'ont pas de TDA, je sais pas. Je pense que c'est dangereux déjà de prendre ce genre de médicament quand t'as pas un TDA déjà, mais ils s'en servent comme espèce de produit dopant, quoi.
Bah, généralement, ils s'en servent pour les examens. Ouais. C'est assez. Je sais que j'avais vu aussi des.
Il y a un film avec Bradley Cooper, là, Limitless, qui parle un peu de ça.
Je l'ai pas vu.
Bradley Cooper prend des médocs.
Je l'ai pas vu.
Bah, ça parle un peu de ça, des produits stimulants dans cette société de compétition un peu où il faut être le meilleur, quoi. Pour avoir la bourse, pour pouvoir espérer rentrer dans la Ivy League ou pour pouvoir aller intégrer une école avec, où tu peux faire du sport et tout, bah les gars, il faut être dans les meilleurs et du coup, les mecs sont en compétition.
La pression est énorme.
Les études, elles coûtent une blinde. Du coup, là-bas, ça circule un peu en... C'est assez facile de s'en procurer.
Il me semble que c'est sur prescription médicale, mais que du coup, il y a vachement de marché noir de l'Adderall, quoi.
Puis il y a beaucoup, voilà, il y a une... Ce qu'on disait à une époque, c'est que voilà, il y a eu une grosse hype à un moment donné du ADHD, donc c'est le TDAH aux US, où à un moment donné, on a un peu surmédicamenté ou surdiagnostiqué en tout cas les enfants. Et donc on a vachement démocratisé l'accès à ce genre de produits là-bas. Nous en France, c'est un peu l'inverse. Je crois qu'on est un poil plus prudent, un poil plus peut-être aussi en retard effectivement sur le diagnostic. Après, il y a des docteurs qui font un travail super et tout, mais c'est vrai qu'en France, on est un peu plus en retrait par rapport à ça.
Si on veut se faire diagnostiquer, comment s'appelle le spécialiste dans ce domaine ?
Quand on veut se faire diagnostiquer, il faut aller voir un psychiatre pour faire des tests, pour en parler, et on fait une série de tests, et ensuite, on établit si oui ou non on a un TDA avéré ou autre chose, hein, ça peut être une autre condition. Et ensuite, on peut réfléchir à des traitements, des choses comme ça.
Alors toi, tu as décidé, à l'âge de 32 ans, d'aller consulter un spécialiste. Donc quelqu'un qui est hyper calé, justement, sur ce domaine-là.
Ouais.
Et est-ce que... Alors, je pense que le mec a dû pas halluciner, parce que je pense qu'il en voit tous les jours.
Ouais, il en voit tout le temps.
Mais tu étais hyper calé sur ta condition.
Ouais, mais ça, c'est... Je pense qu'il a l'habitude de voir des gens qui sont calés.
J'imagine.
Parce qu'en fait, la plupart des gens qui ont ce truc-là se reconnaissent entre eux parce qu'ils sont hyper curieux. Mm. Donc, en fait, ils en apprennent des tonnes et des tonnes. Ils s'auto-informent sur plein de sujets, dont le sujet qui les touche forcément. Mais après, moi, j'ai hâte là, de le rencontrer vraiment en vis-à-vis et de passer du temps un peu plus, tu vois.
Du temps avec lui.
Non, mais parce qu'avec le coronavirus et tout, et puis même... C'est pas évident, les attentes sont un peu longues et tout. Mais on donnera, s'il y a des gens qui veulent envoyer par mail en MP ou quoi, qui ont besoin d'aller voir un spécialiste, on pourra leur donner le nom de la personne. Moi,
c'est un psychiatre.
C'est quelqu'un qui est super.
Il est spécialisé.
Vraiment
dans,
très, très, très pointu, très spécialisé dans l'hyperactivité. Et voilà.
Un spécialiste du cerveau chez l'enfant, mais pas que. Il fait
chez
des
l'adulte.
Adultes. Je voulais revenir sur tes lubies.
Ouais.
Et je voulais un peu expliquer, parce qu'aujourd'hui, bon, on a assez de recul là-dessus, parce qu'il y a eu des moments de friction un peu aussi, parce qu'on n'a pas du tout le même mode de fonctionnement.
Bah, le premier confinement, c'était chaud. Hein.
Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Hein. Ça veut dire qu'il faut prendre le temps de comprendre l'un et l'autre, que moi, je puisse mieux comprendre ton mode de fonctionnement et que toi, tu puisses comprendre le mien, et qu'on arrive à s'ajuster comme ça. On parlait tout à l'heure des lubies, t'en as eu plusieurs, donc nous en parler,
bah après,
ça peut être vraiment divers
quoi,
et varié.
Bah, non mais après voilà, je sais pas, il y a eu un moment où c'était, quand on s'est connus, c'était quoi
T'étais à fond sur le montage des clips
de Bad Records,
de ton
groupe. Bon, vraiment très court, mais en gros on avait fini le tournage des clips, et là il fallait s'attaquer à faire les morceaux. Mm. Faire les morceaux qui étaient à la base au stade embryonnaire, c'était des maquettes, et on sortait d'un marathon de 2 ans. Où on avait nos vies d'adultes avec nos vies pro, avec en même temps, dès qu'on avait du temps libre, on le consacrait à fond au tournage du clip. Ça a été assez énergivore, ça a pris beaucoup de temps à faire, c'était un projet d'envergure quand même, et il fallait remobiliser mon énergie pour écrire des chansons qui étaient à la hauteur, entre guillemets, dans toute proportion gardée, hein, sans prétention, mais en tout cas qui étaient aussi chouettes que ce qu'on avait tourné en images. Et j'avais un peu une montagne en face de moi, je me disais, ouais, je vais jamais y arriver, c'est chaud. Et là, on se retrouve 2 ans plus tard, tu vois, et c'est toujours un peu compliqué parce que c'est toujours dur de raccrocher les wagons quand t'as fait un projet un peu hors dimension, hors format, qui rentre dans aucune case. Ce qui est le cas de Bad Records, c'est vraiment un projet qui est abusé niveau dimension de ce qu'on a fait à 4, quoi.
Vous avez mis la barre très haute.
Ouais, c'est un peu invraisemblable à quel point on s'est...
Donc ça, c'était quand je t'ai rencontré.
Ouais.
Ensuite.
Qu'est-ce que j'ai eu comme lubie à l'époque? Je me rappelle plus, mais il y en avait toujours. Tous les mois, il y avait une lubie. Je sais pas, à un moment, c'était...
En fait, pour vous expliquer, si ceux qui nous écoutent, si vous ne dormez pas encore, l'un des traits très spécifiques de quand on a une lubie, c'est de se surdocumenter sur un sujet. Donc ça veut dire que, tu l'as dit tout à l'heure, c'est que si tu ne sais pas par cœur ton sujet, ça ne vaut pas le coup de si t'es accord perdu, mais ça va très très loin. C'est-à-dire que vraiment, c'est écumer le sujet. Et ensuite, le truc, c'est que tu arrives avec plein d'informations, avec quelqu'un devant toi.
Non, mais c'est vrai.
Qui ne connaît peut-être pas, qui ne connaît rien. Par exemple, tu t'es sûr d'augmenter sur la crypto-monnaie, qui est un vaste sujet qui est super intéressant. Ouais, moi, je n'y connais, mais j'y connais, walou les gars. Je ne m'y intéresse pas parce que j'ai l'impression d'être teubée à ce niveau-là. Je ne vais pas dire que je m'y intéresserai jamais, mais quand Hugo me l'a expliqué, c'était genre toutes les informations d'un coup. C'était pas sur genre plusieurs jours, c'était genre sur une heure. J'ai eu un cours, quoi.
Tu te souviens dans Matrix 1, quand le mec se dit « charge-moi le programme de pilotage », il met une disquette et il dort et il fait oh, « give me more ». Et genre moi, ça me fascinait quand j'avais 12 ans, ce film. Je me dis « putain, ça serait génial si on pouvait se mettre des disquettes comme ça ». Donc c'est vrai que moi, je t'ai mis une disquette genre « tiens, je vais te mettre la disquette crypto-monnaie ». Et c'est vrai qu'en général, j'essaye de te mettre une disquette pour te donner tout ce que j'ai... le condensé d'informations que j'ai emmagasiné. Et parfois, ça peut être très chiant.
Bah parce
moi,
vit,
ça m'auto-fatigue aussi.
On vit ensemble, donc forcément, je suis la première personne qui passe.
Ouais, bien sûr.
Sur qui on peut...
la première personne.
Je suis la première personne qui passe dans le salon sur qui on va forcément se jeter. Mais je trouve ça fascinant. Alors moi, ça me... En fait, le sujet me fascine.
J'essaye de le vulgariser, parce qu'en plus, même moi, je suis pas sûr d'avoir tout bien compris.
Le problème, c'est
de le simplifier, mais ça reste compliqué, ouais.
C'est trop d'informations d'un coup. Genre, j'ai le cerveau qui va exploser. Je te le dis. Je te dis, c'est pas possible. Genre, laisse-moi tranquille. Ah, y a plein de trucs, ça dépend. Un film qui sort, ça va être une chanson qui sort, comment elle a été produite. Donc, ça veut dire, quel est le son de caisse claire.
Chaque outil, chaque synthé, chaque effet qui a été utilisé dans chaque morceau, même... J'écoute le dernier titre de Dua Lipa et d'Angèle, je suis obligé d'analyser, de savoir exactement quel synthé il a utilisé, quel kick, quel snare. Sur la voix, c'est quel type de compresseur. Et si j'écoute le dernier titre de n'importe qui, en fait, ça va être la même analyse tout le temps. Et
ça...
le Tame Impala, le dernier, qu'est-ce qu'il a utilisé, machin, je veux savoir, je veux comprendre, machin. Et puis, pour le cinéma, quelle caméra,
comment ça a été réalisé,
le shutter angle de telle caméra, il était à combien? Là, c'était un shutter à 72, tu vois, comme dans Le Soldat Ryan, Spielberg. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça met de la tension, parce que l'image, elle est saccadée, ça crée une sensation désagréable.
Vous comprenez ce que je vis ou
c'est
pas?
C'est très important. Et tu te rends compte, là, ils ont utilisé dans Tenet le même procédé que Spielberg 20 ans plus tôt, qu'il a. Voilà, donc en fait, et c'est sans fin.
Non, mais t'es capable de sortir le nom du chef-op ou de l'ingé son de plein de films.
Mais. Ouais, et puis le truc qui est un peu fou, enfin fou, un peu flippant même quand je m'écoute parler, tu vois, c'est que même quand la dernière fois on allait jouer au flipper chez un mec qui avait des flippers.
Non, c'est terrible.
Le mec est professionnel, il loue des flippers.
Je vous resitue le contexte. J'adore les flippers. J'adore ça. J'en ai eu quand j'étais plus petite et j'en ai pas. Je ne peux pas avoir, je n'ai pas la place. Physiquement, nous n'avons pas la
dauphins.
Place. J'adore les flippers. Et du coup, pour me faire plaisir pour notre anniversaire de nos 2 ans, il m'a emmené jouer du flipper.
On a joué du flipper.
Et donc, c'est un professionnel, mais qui nous a permis d'essayer ces flippers. C'est trop cool. Mais Hugo est arrivé, il avait tout lu sur les flippers.
Il se trouve que dans les 2 années, ou dans les 5 années passées, j'ai déjà eu ma lubie flipper. En l'occurrence, c'était il y a 5 ans déjà, où pendant un mois, j'étais fasciné par les flippers. Je voulais m'en prendre un parce que je me dis ouais, c'est trop cool, c'est un bel objet rétro et tout, puis ça fait plaisir, dans 20 ans ça sera trop cool, il n'y en aura plus. C'est comme la phrase de JCVD, j'adore l'eau, dans 20 ans il n'y en aura plus, mais les flippers c'était ça. Et du coup j'étais déjà passé par une lubie il y a 5 ans,
ah,
je m'étais rencardé à mort sur tous les flippers, les marques, les licences. Mais alors celui-là c'est le Apollo 13, il est fait par Sega, celui-là c'est le Jurassic Park,
incroyable.
Fait par Dataist. Et du coup quand je suis arrivé là-bas, le mec, je l'ai branché à un moment donné, au bout d'une heure on a discuté un peu, et il m'a dit, oh là là, Quoi qu'il a dit déjà ?
Bah, et je sais pas ce que vous vous êtes dit.
Non,
mais
tu sais, il est devant toi, il a dit oh là, mais tu connais beaucoup de choses, oui, toi, sur voilà, les flippers. Et là, j'ai un peu genre, calme ton pote.
Non, en fait, il
calme
t'a dit,
chéri, quoi.
Genre, limite, il t'a dit, est-ce que vous avez un flipper ? Et t'as dit, ah non, moi j'ai pas de flipper, moi.
Moi j'ai pas de flipper, moi, je connais tout sur les flippers. Non, mais oui. C'était... Mais après, le mec était archi cool et moi j'étais pas du tout en train de lui tirer la jambe. Genre, t'as vu ce flipper ?
Il s'attendait pas à ce que t'en saches autant alors que tu n'as pas de flipper et que tu ne vends pas des flippers.
Ouais, il s'est dit, mais quel est l'intérêt pour lui de connaître tout ça alors qu'il est pas dans le business du flipper ?
Exactement.
Et je me suis dit, ouais, c'est vrai, j'avoue, il a raison. Pourquoi je connais tout ça ?
Mais c'est pareil pour la crypto-monnaie.
J'encombre mon cerveau alors avec des informations qui sont pas forcément toujours très utiles.
Il y a un moment, le problème avec Hugo, c'est par exemple la différence entre lui et moi, c'est que j'ai appris à prendre du temps pour moi. C'est important pour moi. Donc, j'ai souvent des moments où je m'isole, je fais mes bails, je me regarde un film et tout. Et l'autre jour, il n'y a pas très longtemps, je lui dis, tu sais quoi, tu devrais... Donc c'était à l'époque de la lubie crypto-monnaie. Hein. Je lui dis, tu sais, tu devrais te prendre un peu de temps pour toi et te regarder un film tranquille, tout seul, où tu te vides la tête. C'est-à-dire que là où moi je vais regarder The Office, lui a décidé de regarder The Big Short. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce film, The Big Short, c'est quand même le film où tu ne comprends rien, qui parle du coup de la bourse.
Ouais.
C'est très très bien expliqué. Il y a énormément d'acteurs très connus dedans et qui t'expliquent avec des termes très précis.
La crise du subprime.
Exactement.
Ouais.
Et donc c'est quand même pas si simple à comprendre.
Non, mais ça, c'est stimulant quand même.
Ce film est très très bien, mais tu ressors avec un mal de casque.
Ouais, oui, non, mais c'est vrai que.
Donc pour se relaxer, c'est pas franchement le meilleur film.
Tu te souviens la dernière fois quand tu m'as incité à courir un peu sur le tapis? Et là, tu m'as regardé, tu m'as dit, mais t'es sérieux là ? Parce que je m'étais mis l'ordi avec des tutos sur YouTube. J'étais avec mes écouteurs et j'écoutais une formation en anglais.
En anglais, pas sous-titré.
Et
hein.
Le lendemain, c'était des vidéos sur la bourse, quoi, alors que j'étais en train de courir. Donc en fait, c'est un peu sans fin.
Je voulais remettre un petit peu cette condition, mais dans quelque chose de très positif. Quand on s'est rencontrés, on a très vite commencer à travailler ensemble. Moi, je fais beaucoup de créations sur les réseaux sociaux, donc ça peut être autant de la vidéo que de la photo, mais je faisais plutôt, au moment où tu m'as rencontré, plutôt de la photo.
Plutôt de la photo, oui.
Et un jour où je devais juste aller faire des photos, où on avait décidé d'aller faire quelques photos pour raconter l'histoire d'une association en Ukraine, dans la zone de Tchernobyl, Hugo m'a dit « Non, on va faire un documentaire. » Moi, jamais une seule seconde, je me serais autorisée à penser que je pouvais faire un documentaire.
Ouais.
Donc, je pense que ça a trop du bon sur moi parce que ça m'a tiré vers le haut et ça m'a permis de voir plus haut que ce que je pensais. Et il se trouve qu'on a kiffé, on est content, on a fait un beau documentaire qui nous plaît. Pour nous, c'est vraiment... C'était un beau moment de nos vies, je vais pas parler pour toi, mais...
Ah bah si, non, mais t'as raison. Mais j'avais complètement oublié cet exemple, mais qui est pour... En fait, qui est un des exemples les plus révélateurs, t'as raison. The Talks of Chernobyl, c'est un docu qui est né sur l'instant... À l'instinct, comme ça, c'était pas prévu. À la base, ça devait juste être des photos, quoi.
Et il est né d'une envie, d'un besoin d'hyperactivité. C'est que, au lieu de se contenter de juste faire des photos, c'est devenu. Alors là, je t'ai pas aidé sur ce coup-là parce que je pense que je suis un peu comme toi pour certaines choses. Quand je suis sur un sujet, j'y suis à fond.
Ouais, si t'es excité
mais à
sur
fond.
Un truc, bien sûr.
Et donc, on a fait ça en quelques semaines. Ça a été des jours et des nuits de travail, de montage, de voix off, d'écriture. Et ensuite. Tellement on est bête, on s'est dit, on va pas s'arrêter là, on va faire des projections et on va faire des événements et on va prendre un traiteur et on va faire venir des gens, mais gratuitement.
On va les faire venir de l'Ukraine.
Et on va les faire venir de l'Ukraine.
Non,
et quoi ? Et ben alors on va trouver une marque qui va leur donner des croquettes. Et là, les croquettes, on va les faire envoyer en Ukraine. Non, on va les prendre directement en Ukraine. Bon, bref, on n'est pas là pour s'auto-congratuler, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment un très très bel exemple de ce que ça peut être dans le bon sens. Mais je pense que j'étais là pour te cadré aussi d'une certaine façon.
Tout à fait.
J'étais là pour dire la deadline c'est ça.
Ouais.
Alors qu'on n'en avait pas vraiment en fait.
Et mon petit frère a été en renfort aussi pour m'aider à me cadrer. Donc il y avait toi et Léo qui étaient là pour me canaliser. Ouais. C'est passé un cheveu. Hein. Parce qu'en fait au final le fichier on l'a lu depuis le logiciel de montage.
Alors pour
le soir de l'avant-première.
Pour vous raconter et c'est là où Hugo disait je suis obligé d'être au pied du mur
et dans
un stress infini pour finir les choses, c'est que là où moi je m'autoriserais même pas à avoir fini la veille, toi, tu t'es autorisé à finir dans le taxi En allant, on avait une projection à faire dans des bureaux chez Airbnb. Donc c'était une toute petite projection privée. Donc il y avait vraiment... C'était important pour
Putain,
nous.
Putain, je me rappelle plus de ça, c'est vrai.
Et dans le taxi, tu étais encore en train de...
D'exporter des sous-titres et tout.
Mais même pas, tu étais en train encore d'éditer.
Ouais.
Et sur... Arrivé là-bas, bien sûr, on arrive en retard. Arrivé là-bas, voilà, c'était encore le stress énorme.
T'étais
sur l'ordi. Moi, j'étais en train de pipoter tout le monde en mode oui, oui, ça arrive, petite conférence.
Mais ça, tu vois, pour le coup, c'est pas un souvenir très plaisant pour moi. Parce que c'est vrai que dans ces moments-là, je me retrouve un peu en échec. Je me dis merde, là, c'est le moment où j'ai vu trop gros. Parce que toi, c'est pas faute de m'avoir répété plusieurs fois. Réduis un peu la durée du docu. Réduis, personne nous attend. Personne n'a financé ce truc. On le fait nous-mêmes. C'est un plaisir de le faire. Il n'y a aucune expectative, réduit. Cette scène-là, elle ne marche pas, ne la mets pas. Et moi, j'étais là, non mais si, elle va marcher, c'est juste que je n'ai pas trouvé le bon montage. Il faut qu'on reprenne la scène, il faut qu'on trouve un autre montage. Et je réinversais les plans, j'essayais de trouver du storytelling là où parfois c'était plus difficile, tu vois. Je me mettais des... Alors tu me disais, mais là c'est demain, là c'est dans une heure, là c'est maintenant. Et moi, j'étais là, mais non, ça va marcher. Et en fait, le film aurait pu être fini une semaine avant parce qu'on a travaillé non-stop et il existait. Il faisait genre 40 minutes. C'est juste qu'il manquait les 3 minutes
il
de
était pas
plus
pareil,
pour être parfait à mes yeux. Ouais. Et tant qu'il n'était pas parfait, j'ai cette espèce d'obsession de dire il faut que ça soit parfait, il faut que ça soit une espèce de proposition radicale, en tout cas, ou en tout cas qui correspond à 100% à ce qu'on a en tête. Et c'est non négociable. Et ça me met dans des situations où la projection, là, ce soir-là, et le lendemain à l'espace Némeilleur aussi, où on était encore en train d'ajuster des réglages. Sur le coup, en fait, je me rends compte que je me fais un peu du mal. Tous les moyens sont bons pour s'autoriser à essayer de faire toujours plus, toujours mieux, toujours plus loin. Et ça peut être épuisant, bien sûr. Ça a été épuisant pour toi ce soir-là. Moi, ça m'épuise aussi. Et pour parler d'un truc un peu personnel aussi, ça épuise aussi beaucoup mes amis avec qui je fais de la musique. Donc parfois, c'est dur.
J'ai l'impression que tu t'autorises vachement plus avec moi, t'es beaucoup plus relax, tu vois, t'es très supportif. Ah oui, tu vas faire ça, c'est trop bien. Ah mais ça, viens, je t'aide à faire ça. Alors qu'avec toi-même, tu vas être beaucoup plus exigeant, beaucoup plus regardant, beaucoup moins bienveillant parfois avec comment tu fais, dans quel temps imparti. Et c'est fou parce que je vois la différence et que des fois j'aimerais que tu te dises ce que tu me dis à moi.
Ben j'essaye, hein. Et c'est un travail, mais j'essaye d'être plus indulgent, j'essaye d'être plus cool avec moi aussi et de me dire mais vas-y, fais-toi plaisir, hein. Et le début de Bad Records, de sortir une chanson comme ça, ça a été un premier pas vers lâcher un peu du lest et dire ok, ça vous dit de partager un truc, un petit bout de chemin. On a plein de chansons en poche et la suite arrive, tu vois, mais c'est encore parfois c'est encore un peu compliqué, ouais.
Et comment tu le ressens en ce moment, en tout cas, comment tu ressens un peu, voilà, l'hyperactivité en ce moment dans ta musique, dans ta vie, comment ça se manifeste?
Là je suis très content de commencer donc vraiment un suivi professionnel sérieux, quoi, un suivi médical. Donc, pour parler de choses un peu perso, mais c'est vrai que j'ai atteint un point où rien ni personne, entre guillemets, ne pouvait vraiment m'aider et il fallait que j'en parle à un professionnel. Donc, toi, c'est pas faute d'avoir essayé. Mes amis, c'est pas faute d'avoir essayé. Ils ont tout essayé vraiment avec moi. Ils ont toujours été super bienveillants, super patients. Ils ont vraiment tout fait. Vraiment, pour le coup. Toi aussi. Ma famille aussi et les gens qui comptent aussi. Donc, il faut se faire aider. Il faut pas hésiter à en parler. Il ne faut pas hésiter à dire « je crois que c'est un peu grave, en vrai ». Enfin, grave, il y a des choses
Ça m'handicape un peu. Enfin,
mais je crois que je suis un peu dans la merde, je crois que je suis un peu en galère là.
Mais t'es pas obligé d'en arriver là pour agir. Mais...
Je crois que je galère un peu là et ça devient pas très drôle. Donc en fait, moi, c'est le moment où, si tu veux, je t'ai dit « je crois que là, vraiment, je suis en train de galérer, mon cerveau, il va trop à 1000 à l'heure ». J'ai besoin d'une pédale de frein pour ralentir le truc parce que c'est fatigant.
Je crois que surtout le déclencheur, en tout cas là où j'ai vu que chez toi ça avait changé, c'est je crois que ça ne me rend pas très heureux.
Ouais. Bah, après, être heureux et tout, c'est un sujet qui est compliqué pour plein de gens. Tu vois, la quête du bonheur et tout. Enfin, c'est...
Non, mais le fait que ton
être un peu sage
cerveau,
et tout, tu vois, voilà. Mais
ton cerveau...
Le cerveau
aille
à mille
à l'heure. Ouais, c'est...
Alors, en fait, je me suis juste dit, ok, c'est fatigant. Ça fatigue tout le monde. Moi, le premier. Des fois, ça m'empêche de profiter du moment présent aussi, puisque je suis tout le temps dans la projection aussi. Donc, aussi bien je peux être nostalgique que je peux aussi être dans la projection de quelque chose qui n'existe pas. Genre, et puis on va faire ça, et si on faisait ça, mais si on faisait ça. Et cette projection, cette espèce de fuite en avant, elle est terrible aussi, parce qu'elle fait du mal, en fait. Alors qu'il suffit juste de vivre l'instant présent. Mais vivre l'instant présent, pour moi, justement, ça reste un truc qui est complexe. Et pour les gens qui ont cette condition à un niveau sévère, ça reste quelque chose qui est difficile. Donc, ne pas hésiter à en parler. Et là, ça s'est traduit par prendre la décision d'aller voir un spécialiste, entamer une thérapie, en tout cas entamer un suivi médical, pour essayer de mettre en place des mécanismes pour me rééduquer, en fait.
Okay, je
considère que c'est un peu comme de la kiné
du cerveau.
Tu fais pour ton cerveau. Tu vas rééduquer ton cerveau. Parce que ton cerveau, au bout d'un moment, il a besoin qu'on prenne soin de lui. Je suis encore qu'au balbutiement du truc, c'est que le début, mais j'ai bon espoir, quoi. J'ai bon espoir que ça me permette de remettre les choses dans l'ordre et de me donner une béquille, en tout cas, pour alléger le truc, quoi.
Parce qu'au final, il y a très peu de moments où t'es au repos. C'est-à-dire que même quand...
Cette phrase, pardon.
Non, mais il y a très peu de moments où tu penses pas. Et même quand tu dors, tu rêves beaucoup et tu te souviens pas mal de tes rêves.
Ouais, et puis là, ce truc un peu relou, c'est que les rêves sont souvent, c'est des rêves qui veulent dire des trucs et qui développent des raisonnements. Alors ouais, alors j'ai pensé à ça. C'est un peu comme si le cerveau, il continue à réfléchir même quand tu dors. Et c'est là où je me suis dit, waouh, là c'est un peu abusé. C'est un peu abusé. Je suis en train de m'épuiser et j'ai besoin de simplifier. J'ai besoin de l'aide d'un spécialiste aussi parce qu'en fait, moi, tout seul, je m'en sors pas. Et c'est pas faute d'avoir un entourage qui m'aide. Donc il va falloir accepter un peu la réalité, c'est que vas-y, t'as plus 20 ans et le truc a empiré, le truc a pris un peu le dessus, ou en tout cas a pris une ampleur qui sort un peu d'un cadre, donc il va falloir cadrer un peu les choses. Et c'est vrai que la nuit aussi, quoi, la nuit ça continue à cogiter, quoi.
En tout cas, pour ces derniers mois, je vois vraiment l'évolution, je sens que d'avoir décrit avec quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, ton mode de fonctionnement et tout, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses. J'ai l'impression que tu commences à t'octroyer un peu plus de temps pour toi où tu vas pas regarder The Big Short, tu vas regarder des trucs qui te font vraiment plaisir.
Ça m'arrive, ouais, ça m'arrive de plus en plus, mais ça...
Mais c'est très rare.
C'est de la rééducation, quoi.
Ouais, c'est encore très rare et c'est encore vraiment très sporadique. Mmh. Et je sens que ça va être un travail de longue haleine et de se dire que il y a pas de bien ou de mal, c'est pas parce que tu vas pas remplir très très bien tous tes papiers administratifs que ta vie sera mieux et que tu seras plus heureux, pas du tout. Je pense juste que il faut bien doser chaque truc, mais que la musique et tes passions prennent une place, mais qu'il faut octroyer chaque truc dans le bon endroit de ton cerveau. Il faut une petite place pour la famille, il faut une place pour ses passions, il faut une place pour ses amis, son chien, sa chérie. Bref, je me mets au même titre que le chien.
Non, mais t'as raison, il faut compartimenter les choses, en fait. Il faut juste mettre un peu un semblant de cadre dans toutes ces facettes de la vie, quoi.
Et t'as pas l'impression que tu t'es rapproché un peu aussi, même si t'as jamais été déconnecté, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, t'es beaucoup plus proche de ta famille, de tes amis, que quand même, ça... Il y a du changement, quoi. T'as toujours été très proche de ta famille, mais dans tes amis...
Mais c'est vrai que ça, c'était typiquement un trait aussi de ma personnalité, c'est que des fois, j'ai une anxiété du téléphone, une anxiété du message, ou de l'appel, ou de ma messagerie. Je suis le genre de gars qui a 980 notifications sur ma boîte mail, 45 la pastille rouge, là, tu sais, dans les appels manqués, ou dans mes mails, j'ai 3000 mails... 300 SMS non lus, enfin, la plupart c'est des SMS automatisés de SFR, mais dans le lot il y a quelques potes aussi, des vieilles connaissances et des gens à qui j'ai pas répondu, pas parce que je les méprise ou parce que je pense pas à eux, non, juste parce qu'en fait déjà ça me donne de l'anxiété, le SMS, je suis mal à l'aise avec le... En fait j'ai besoin d'être avec quelqu'un quand je lui parle, j'ai besoin de voir ses yeux, de voir son visage, sa bouche, de lire son regard, c'est beaucoup plus intéressant pour moi. Et je sais pas si t'as remarqué, quand je suis au téléphone aussi, je fais les 100 pas tout le temps.
Mais c'est
parce qu'en fait, le fait de ne pas avoir le mouvement, d'avoir la parole, mais de ne pas avoir le mouvement qui va avec, mon cerveau, ça le tue. Et j'en ai parlé avec des gens qui ont un TDAH aussi, et ils ont exactement le même trouble. C'est que le téléphone, il y a forcément besoin de compenser avec des gestes physiques. Donc ils font les 100 pas.
Tu fais des grands mouvements de...
J'arrête là. Et là, c'est là qu'on voit qu'il peut y avoir une agitation mentale aussi. Mais c'est que... De la même manière, les SMS ou les appels du téléphone me donnent de l'angoisse parce que ce n'est pas des vrais rapports humains face à face. Alors que je suis très à l'aise avec les rapports humains face à face où là, je vois quelqu'un, je peux le regarder dans les yeux, on peut rigoler ensemble et je peux l'écouter et c'est cool. Donc tout ça pour te dire que oui, du coup ces derniers temps je travaille quand même sur raccrocher un peu aussi les wagons, être un meilleur ami sur les petites choses.
De répondre plus vite aussi parce que t'as l'impression que je pense que si tu répondais pas tout de suite, t'allais oublier.
Ouais ouais c'est ça, c'est que tu lis le message, tu dis ah trop cool, et là à ce moment là il y a Joe qui tire sur la laisse ou qui se passe quelque chose dans la rue et je range mon téléphone et je dis je répondrai dans 2 minutes ou je répondrai dans 15 minutes quand je serai à la maison, et en fait une chose en entraîne une autre et le SMS il est au fond de ma tête, et il y avait un proverbe de gens qui ont un TDAH qui disent loin des yeux, loin de la tête, enfin loin de la pensée, et parfois c'est ça, out of sight, out of mind, en anglais ils disent hors de vue, hors de pensée. Et c'est aussi con qu'un verre d'eau, quoi.
Est-ce qu'on a... On se l'était déjà dit, mais je pense que toi et moi, on a un peu le même truc, c'est qu'on doit dormir d'épuisement.
Complètement. On dort que parce qu'on est épuisé, qu'il n'y a plus de jus, plus rien. Sinon, on ne dort pas, quoi.
En fait, moi, je n'apprécie pas forcément me mettre dans le lit et me dire « Ah bah, ça y est, je vais attendre que
ouais,
ça vienne. »
Mais tu sais que ça, c'est... Au final, c'est quand même... Tous les deux, on a ce problème-là et c'est un trouble de s'endormir d'épuisement. Ce n'est pas très sain. Hein. Forcément, tu ne peux pas tenir toute une vie comme ça. C'est un peu... Il faut faire attention.
Aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais changer pour... voilà, pour essayer de mieux vivre un peu tout ça sans enlever cette condition qui, pour moi, est aussi autant un atout qu'un handicap, finalement.
Bah déjà, je voudrais te remercier, toi, d'avoir compris un peu à un moment donné à qui tu avais affaire et d'avoir accepté comment j'étais. Ça m'a beaucoup, 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 beaucoup aidé d'être avec quelqu'un qui n'est pas dans le jugement, qui est très bienveillant.
Bah, et des fois, ça m'énerve quand même.
Bien sûr, mais c'est grâce à toi aussi que je me suis senti à un moment donné... je me suis senti vachement soutenu dans ça aussi. Je vais y arriver, tu vois. T'as toujours donné 2000% de ta personne pour ça, et c'est là que je me rends compte aussi que j'ai juste besoin d'un docteur pour m'aider, tu vois, et que toi, ton rôle, il s'arrête aussi à un endroit précis. Tu peux pas tout faire, tu peux pas porter sur tes bras tout ça. Donc maintenant, c'est à moi de faire le reste du chemin. Toi, tu m'as montré la voie, mes copains aussi, ma famille aussi.
Bien sûr.
Tout le monde m'a montré la voie. Ça m'a coûté beaucoup de choses dans ma vie aussi. Donc maintenant, il faut que je fasse ce travail par moi-même et que je prenne à bras-le-corps ce truc.
Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui se retrouve dans tes mots et qui aurait envie de mieux comprendre qui il est ?
Ce que je dirais à quelqu'un qui se sent un peu en décalage comme ça, que tu sois jeune ou très jeune ou adulte dans une vie un peu avancée, mais que tu te sens en décalage un peu, il faut pas hésiter, mais vraiment pas hésiter une seule seconde à en parler à un docteur ou à des amis ou à de la famille, à leur dire « Hey, j'ai besoin d'un petit coup de pouce, je me sens pas très bien, je sens qu'il y a un truc qui tourne pas tout à fait comme ça devrait » ou en tout cas, je sens que ça me rend pas très heureux, la manière dont ça tourne. Je sais que ton épisode avec Pauline sur la bipolarité aussi avait touché beaucoup de gens. Et moi, j'avais trouvé ça très, très courageux de la part de Pauline de raconter son histoire. De toute façon, tous les podcasts que tu as fait jusqu'ici étaient fous, tu vois. Et quand j'écoute l'histoire de Pauline ou quand j'écoute l'histoire de Manon, par exemple, je me dis que moi, je suis ridicule avec mes problèmes. Quand tu vois le combat que Manon, ma belle-sœur, a fait, oui, mais il y a aucune hiérarchie, mais quand même, c'est des combats de vie qui font que dans ces moments-là, moi, je me sens encore plus con, quoi. Je me sens encore plus bête, quoi. Je me dis, putain, ça peut être dur à vivre pour l'entourage.
C'est pas dur à vivre.
Ça peut être compliqué.
Le plus dur à vivre, c'est plus la frustration.
De voir le gâchis, entre guillemets, du truc. Pas le gâchis.
Pas du tout du gâchis, mais de voir que tout est là.
Toutes les histoires de vie que j'ai entendues sur ton podcast récemment et tout, je me dis que moi, avec mes petits problèmes et tout, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de dire à tous les gens qui nous écoutent, c'est que, quels que soient les problèmes que vous avez, en fait, il n'y a pas de raison, en tout cas, de rester seul et de pas être accompagné dans ces moments-là. Moi, j'ai attendu jusqu'à 30 ans que ça ait des conséquences sur ma vie aussi, ça a pris des proportions, où c'est devenu à un moment donné comme un handicap. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont non diagnostiqués sur une condition, qui peuvent avoir une condition mentale, psychique, qui peut du coup engendrer du coup une dépression parce qu'ils sont pas diagnostiqués, ils sont pas soutenus, ils sont pas aidés et tout, et ils se sentent en décalage. Ils ont l'impression que la vie leur glisse un peu entre les doigts. Le cerveau, c'est vraiment complexe, c'est vraiment une science, quoi. C'est une chimie interne, c'est une vraie... C'est une vraie popote, quoi. Et si ça se dérègle, et s'il n'y a pas tous les composants qu'il faut, qui tournent comme il faut, et ben ça se dérègle et ça peut avoir des conséquences sur ta vie d'adulte, et sur ta vie de couple, sur ta vie pro, sur ta vie perso.
Sur ton humeur.
Sur ta santé, sur ta... Tu peux passer à côté de ta vie, en fait. Donc, il n'est jamais trop tard. Il n'y a pas de mauvais moment pour se faire diagnostiquer si jamais il y a un truc qui ne va pas. Le jour, en général, où on pose un diagnostic sur une condition comme ça, c'est en général le plus beau jour de notre vie parce qu'on se sent compris. On découvre qu'il y a un truc, qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a une condition. Ça peut vraiment sauver des vies, je le pense. Et moi, j'ai vu des témoignages très touchants de gens qui ont 40 ans, 50 ans et qui disent « j'ai l'impression d'être passé à côté de ma vie parce que toute ma vie, je me suis senti différent et j'ai jamais compris pourquoi. Et personne m'avait raconté ce truc. Et d'un coup, je découvre qu'il y a un trouble et qu'on est des milliers à avoir ce truc-là. Et que c'est pas une maladie mortelle, mais c'est un truc qui peut te tuer à petit feu, quoi. Donc, pourquoi pas mettre en place plein d'exercices. Et puis, il y a aussi des traitements de médicaments qui peuvent te soigner, qui peuvent t'aider, en tout cas.
Toi, pour l'instant, t'en as pas.
Il faut que j'en parle avec
oui,
le
médecin. Oui, il faut que ce soit toi. Alors, surtout, il faut que ce soit ça, vous ça, qui décidez.
Ça peut te donner une béquille, en fait. Il y a des gens qui comparent ça à une paire de lunettes. Il y a un gars qui racontait qu'il avait fondu en larmes le jour où il a pris son traitement, parce qu'au bout de plusieurs jours, il avait l'impression qu'il avait mis des lunettes sur son cerveau. Et du coup, il arrivait à faire le focus sur des sujets. Les sujets sur lesquels il n'arrivait pas à se concentrer d'habitude, alors qu'il arrivait à faire des milliers de trucs super compliqués. Et il a pleuré parce qu'il s'est dit, mais en fait, tout ce temps-là, je pouvais fonctionner. C'est juste que j'avais pas les lunettes pour. Moi, je trouve que c'est très semblable à ça. C'est comme une sorte de myopie du cerveau. Donc, je dirais que si vous vous sentez un peu différent, si vous sentez qu'il y a un truc qui peut clocher, que vous vous sentez un peu en marge du reste des gens et que ça vous rend malheureux ou en tout cas que ça vous porte préjudice, faut en parler. Faut en parler parce qu'il y a plein de gens comme vous.
Et je t'avais demandé s'il y avait des ouvrages que tu avais envie de conseiller à des gens qui auraient envie de se renseigner sur le sujet.
Le premier, c'était All Dogs Have ADHD.
Ouais.
Ça, c'est mignon. C'est un livre pour enfants. C'est rigolo, mais c'est pour si quelqu'un, par exemple, qui nous écoute, a un enfant qui a un TDAH ou qui est hyperactif et qui se sent un peu différent des autres dans la récré, un cours de récré. C'est un livre qui dit que tous les chiens ont le TDAH.
Ce qui est bien vrai.
Il y a un petit labrador en couverture, donc c'est parce que c'est qu'en gros, les chiens, ils zappent en permanence. Ils voient une balle, ils vont la prendre, ils voient un papillon passer, ils suivent le papillon, et puis ils trébuchent, et puis ils se disent qu'ils ont soif, ils vont boire, et puis une idée en emmène une autre en permanence. Ça ressemble à un peu un chaos organisé. Et donc, je trouve ça super mignon, et ce bouquin est rigolo, et ça montre aux enfants qu'il n'y a pas de stigma à avoir, quoi. C'est juste une condition et on peut être fonctionnel en ayant ça. Et un autre livre, bah, c'est le livre dont tu parlais tout à l'heure, le petit guide pour les...
Les petits guides à usage des gens intelligents qui ne se trouvent pas très doués.
Sinon, il y a des TED Talks que je peux conseiller aux gens qui ne connaissent pas vraiment le TDAH. Il y en a un de Jessica McCabe, donc c'est, qui s'appelle Failing at Normal. C'est un talk sur TED qui est très chouette. Il y en a un autre qui s'appelle ADHD Sucks But Not Really de Salif Mahaman. C'est sur TED aussi, c'est un TED talk qui sont sur YouTube. Ils sont très sympas, ces deux vidéos, elles sont très cool, elles durent 15 minutes chacune et je pense que c'est un truc à montrer à quelqu'un qui ne sait pas vraiment ce que c'est. Ça permet d'expliquer assez simplement le concept et c'est chouette.
Je vous mets tout en barre d'infos, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ?
Ben, je sais pas, écoute, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? De réussir à profiter des petits moments, des little things, c'est le plus important. Et de passer plein de moments encore avec ma famille, mes amis, mes frères que j'aime, avec toi, et avec tous les gens qui m'entourent et que j'aime, et avec qui parfois j'ai pas le temps de me poser. Donc ça, c'est la chose qu'on pourrait me souhaiter.
Trop bien.
Toi, qu'est-ce qu'on te souhaite ?
Moi, je me souhaite, en tout cas, je nous souhaite de faire encore plein de choses, peu importe, de créer plein de trucs, que ce soit sur n'importe quel support. Et surtout, ce podcast n'existerait pas sans Hugo. Donc, c'était trop cool de l'avoir pour ce 6e épisode, parce que c'est quand même important de dire que c'est un peu grâce à son hyperactivité que j'ai réussi à sortir mes projets à moi. Donc, c'est trop cool. Et
je pense que tu as toujours eu ça au fond de toi et que tu avais... T'as toujours eu 10 000 idées, t'avais aussi besoin de quelqu'un qui te dit que c'est toujours possible et qu'il faut y aller, même si ça veut dire dormir un peu moins ce soir, on le fait. Et tu peux être fière de toi aussi.
En tout cas, moi, ton hyperactivité, ça m'a aidée d'une certaine façon. Donc là où toi, ça peut sembler parfois compliqué et sembler comme un échec, en tout cas pour moi, ça m'a aidée. Donc c'est vraiment absolument pas que du négatif. Heureusement.
Ouais, ouais, non, c'est clair, il faut finir sur une note positive. Et t'as raison de le dire. Ouais,
pour
ouais.
Moi, c'est.
Ça a plein de bons côtés aussi.
Un espèce de super pouvoir qu'il faut maîtriser.
C'est ça.
Vraiment, il faut le voir comme ça. Si je devais le résumer avec mes mots à moi, c'est un super pouvoir qui est compliqué. Et comme dirait.
Marlène Schiappa.
Marlène
ou
Schiappa,
Spider-Man.
Ou Spider-Man.
Le tonton de Spider-Man, en l'occurrence, Ben.
C'est un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Et c'est vrai que, voilà, ben, souvent, ce. En tout cas, dans ton cas, cette forme cérébrale, entre guillemets, fait de toi quelqu'un de très, voilà, qui a une force de caractère, qui est très aimé, qui est très apprécié, dont les gens aiment le travail, etc. Et du coup, ça implique voilà, d'être hyper présent, de répondre présent pour plein de choses dans sa vie, dans son travail. Et c'est très pesant. Donc, il faut apprendre à gérer tout ça. Et il faut être très bienveillant avec soi-même aussi, parce que plein de fois dans le podcast, j'ai entendu dire « Non, mais moi, c'est pas important. Non, mais moi, c'est moins grave que quelqu'un d'autre. » En fait, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que peu importe comment vous vous sentez, ce n'est pas moins grave ou plus grave. C'est juste comment vous sentez. Et c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez si vous avez envie de vous médicamenter. C'est vous qui décidez si vous avez envie de voir quelqu'un, etc. Il faut être très bienveillant avec soi-même et donnez-vous les conseils que vous donneriez à votre meilleur ami. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner parce que parfois, moi, ça m'a aidé. Donc, Hugo, je te le donne. Donne-toi les conseils que tu donnerais à ton meilleur ami.
T'as raison.
Merci à Hugo de m'avoir confié son histoire au micro de The Raccoon Club. Je ne le répéterai jamais assez, mais aujourd'hui, on a la possibilité et le devoir de mettre en lumière les maladies et les conditions mentales pas assez reconnues. Ce n'est pas parce que l'on ne voit pas quelque chose qu'il n'existe pas. Et surtout, le plus important, si vous souffrez, vous n'avez pas à souffrir en silence. Parlons-en. Si vous pensez que vous n'êtes pas normaux, sachez que plein de gens ont essayé de l'être avant vous et que c'était les deux minutes les plus longues de leur vie. Vous ne devriez pas changer qui vous êtes et encore moins si on vous le demande. Maintenant, à vous de jouer. Vous pouvez me soutenir en me mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts et en me laissant un petit mot doux, en vous abonnant à mon super Instagram Raccoon Club Podcast et surtout en partageant cet épisode s'il vous a plu. Vous retrouverez tous les épisodes sur vos plateformes de podcast préférées. À très vite pour de nouvelles histoires incroyables.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com, code PROGRAM.